On est dans une séance assez informelle du séminaire MIG. Et dans l'annonce que je me suis permis d'envoyer et qui engendre un bug sur mon ordi actuellement.
Et un buzz dans la virée.
Et j'avais mis un pad pour que des gens puissent laisser des commentaires, des expériences et des témoignages. Écoutez, Elisabeth Borne, c'est peut-être, on pourrait peut-être commencer par là. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui est actuellement ministre de quoi? Est-ce que vous savez? De l'éducation nationale. Et donc, à l'éducation nationale, on a deux expériences récentes avec l'IA. C'est ridicule. Est-ce que vous vous en souvenez? Ça va très très vite, hein, on est submergé d'informations sur l'IA. Mais disons, il n'y a pas très longtemps, il y a une IA qui, je crois, s'appelait Lucie. Ça vous dit quelque chose? Vous avez vu passer cette info?
Non.
Un truc qui a été conçu pour l'éducation nationale. Je ne sais pas trop pourquoi. On n'a pas eu trop le temps de la tester parce que ça a été retiré, déconnecté très très rapidement dans les heures qui ont suivi la mise en ligne du projet. Parce que c'était vraiment trop ridicule. C'était... Ça a été mis en ligne, grosso modo, au même moment que DeepSeek, le truc qui a fait sensation, là, venant de Chine. Et voilà, donc c'était vraiment quelque chose de lamentable. Par exemple, comme outil éducatif, les gens qui l'avaient testé sur l'histoire de France en avaient comment dire, obtenu des informations plus que erronées. Mais néanmoins, Elisabeth Borne a promis, là récemment, pendant le sommet de l'IA, ou peut-être juste avant, qu'au niveau collège, il y aurait une formation obligatoire à l'IA. Voilà, donc les jeunes vont être formés à l'IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire en vrai. Comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de moyens qui ont été annoncés. On ne sait pas combien de qui va intervenir, avec quel argent, etc. On sait que quand même l'ambition, c'est d'acculturer les jeunes à un usage réputé profitable pour la société, les acculturer donc à un usage dénué de biais, etc. De ces outils qui sont donc présentés comme absolument incontournables. Quand on a un peu d'expérience sur ce que fait l'éducation nationale, surtout récemment, dans un contexte de pénurie budgétaire, on peut s'attendre à ce que ça soit vraiment que quelque chose de très superficiel, que ça soit aussi la porte ouverte à des start-up qui sont en embuscade depuis très longtemps pour vendre des services d'éducation soi-disant enrichis par l'IA, qui sont présentés comme nécessaires pour pallier aux défauts d'un système. On a un service public de l'enseignement et de l'instruction qui est objectivement en phase d'effondrement. On peut aussi s'inquiéter du fait qu'il y a déjà une forte incitation à tous les niveaux pour que les jeunes se connectent à des écrans, parce que tout simplement les devoirs sont transmis maintenant par ces procédés-là aux familles. Les systèmes de communication entre les familles et les enseignants, toutes sortes de choses obligent en fait les jeunes à se connecter à des écrans, alors que il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il faudrait plutôt éloigner les très jeunes de ces objets et démarrer un usage, pourquoi pas, disons, raisonnable de ces outils plus tardivement, une fois que les enfants ont atteint une certaine autonomie. Il y a eu un rapport, d'ailleurs commandé par le gouvernement Macron, hein, qui a été publié en avril dernier, qui établit ce genre de fait. Alors, comme c'est un rapport scientifique, ils prennent beaucoup de précautions, mais j'ai eu la chance, moi, de discuter avec des personnes qui étaient dans la commission et qui m'ont expliqué qu'ils se sont auto-censurés sur plein de sujets, parce qu'ils n'ont pas encore de preuves scientifiques. C'est très difficile de prouver scientifiquement que les écrans rendent con. Il faut étudier des cohortes sur plusieurs années, il faut attendre que les enfants deviennent grands, grosso modo. Et puis comparer avec des groupes témoins, je ne sais pas, bon, c'est très difficile d'apporter une preuve scientifique, mais par contre, il y a un faisceau de présomptions. C'est d'ailleurs mentionné dans le rapport, hein, qu'il y a un faisceau de présomptions sur le fait que mettre les très jeunes enfants en rapport avec des écrans crée des, en tout cas des perturbations de la sociabilité et des capacités cognitives telles qu'on les connaît actuellement, qui sont considérées comme entre guillemets normales. Alors moi j'ai un problème avec cette normalité. On pourrait peut-être faire l'hypothèse qu'une nouvelle forme de sociabilité, de relation interhumaine émerge de l'outil numérique. Pourquoi pas? Mais après, d'un point de vue pragmatique, là, ce qu'on constate, c'est quand même des effets assez inquiétants sur les tests cognitifs tels qu'on les, voilà, les a établis dans les dizaines d'années qui précèdent. Et pour les compétences standards qu'on doit enseigner à l'école, c'est extrêmement négatif. Voilà, je pense qu'il y a une sorte de consensus là-dessus. Et voilà, moi je m'inquiète personnellement que finalement l'éducation nationale pousse continuellement à aller vers l'IA. Enfin, en fait, moi en tant que personnel de l'éducation nationale, je reçois presque tous les jours des incitations à utiliser des outils d'IA. Très souvent d'ailleurs, qui sont des émanations de start-up, hein, de la communauté dite des EdTech, des technologies de l'éducation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une communauté qui est très soutenue par, imaginez Xavier Niel, mais c'est une branche de son activité, hein, parce qu'il y a un marché. Avec l'effondrement de l'éducation nationale et du service public de l'éducation, il y a un marché à prendre. Apprendre, certes, par des écoles privées traditionnelles, mais aussi par des nouvelles méthodes d'éducation et des gens qui sont là sur des sites web, sur des méthodes hybrides, etc., qui sont là depuis très longtemps en embuscade. Voilà, et moi, mon inquiétude, c'est que, même si sur le papier, c'est pas déconnant d'éduquer les jeunes à l'usage de l'IA, j'ai peur que les moyens ne soient pas mis pour faire ça de manière raisonnable. Ça voudrait dire les éduquer, leur montrer que ça rendrait des résultats extrêmement biaisés, leur montrer les phénomènes d'addiction, toutes sortes de... Enfin, disons, en tout cas, il y a une sorte de principe de précaution qui devrait s'appliquer. Et, c'est-à-dire qu'on met sur le marché des produits dont on vante certains aspects positifs. Il y avait d'ailleurs une émission sur France Culture il y a quelques jours avec Oriane Ledroit. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Oriane Ledroit. Kevin, tu te souviens de Oriane ?
Non.
C'est quelqu'un qui est venu ici, dans ces murs. Okay. Du temps où elle était dans le milieu des Fab Labs et des trucs comme ça. Et maintenant, elle gère le... Peut-être qu'elle nous écoute. elle représente, disons, le lobby des EdTech.
Je peux faire mon avocat du diable ?
Voilà,
bien sûr. Est-ce que la question s'est posée pour l'informatique il y a 40 ans ? Ou il y a 50 ans ? La même question, en fait.
De l'entrisme du privé dans l'éducation ?
Non, là, je te parlais de qui a jamais demandé ça, en fait. Mmh. T'as la même chose sur l'informatique, oui, finalement. Et en fait, enfin, c'est pas une question qu'on demande au peuple en général, ces technologies. On l'a jamais demandé, en fait.
Pour
la baliste non plus, ni le...
La voiture non plus.
La voiture non plus. Donc ça a été des choses qui ont été imposées par des... Par le... Donc, je sais pas si il faut cibler ça là-dessus, parce que finalement, ça désoriente. Mais l'informatique, c'était pareil aussi.
Oui, mais personne n'oblige le gouvernement à pousser vraiment à fond là-dedans. C'est un truc...
Ouais, mais alors ça, c'est plus... Moi, je pense que la psychologie du fear of missing out, tu sais, là, je pense que c'est ça. Il y a 2 ans, souvenez-vous encore, tous les budgets français de la culture étaient fléchés métavers.
Tout à fait. Moi, j'ai eu un amphi à Jussieu.
Tu ne pouvais pas déposer un dossier à la CNC sans parler métavers. Bon, ben c'est mort. Bon, pourquoi? La raison était simple. C'est qu'en gros, tu avais Jean-Michel Jarre qui poussait parce qu'il kiffait ce truc. Donc ça, c'est le fear of missing out, mais tu as ça partout dans toutes les boîtes en ce moment. Toutes les boîtes, elles sont dans la peur de passer à côté du truc. Et si tu retraces les 15 dernières années de technologie, la liste... Moi, j'ai commencé à le noter, des techno-buzz dans lesquels tu es embarqué, tu peux plus critiquer, plus rien dire, parce que tout le monde est dans une espèce de truc irrationnel. Et puis 2 ans après, plus personne n'en parle. Et en fait, la mémoire, c'est vraiment la mémoire de poisson rouge. 2 ans après, plus personne n'en parle. Donc ça, c'était ça. Mais tu avais l'IoT, tu avais le VR, l'AR, il y a une quinzaine d'années. Tu avais... j'ai une grosse liste de trucs comme ça. Mm-hmm. Le LiFi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Il y avait une liste de techno qui sont juste des buzz. Parce que derrière, il faut voir comment le mécanisme marche. C'est que tu es obligé de faire la surenchère au niveau des boîtes, des petites boîtes pour avoir du pognon. Et donc le meilleur, c'est de faire la surenchère marketing et de dire « Ah, il faut absolument, il faut absolument. » Donc il y en a qui sont très forts pour ça, c'est les gros, les GAFAM, parce qu'ils ont une puissance de feu marketing qui est forte. Et puis les petites qui s'essayent à d'autres trucs. La voiture automatique, ça fait combien d'années qu'on nous dit « L'année prochaine, c'est sûr, on traverse Jakarta avec une voiture automatique. » Ça fait combien d'années qu'on nous vend ça? Et en fait, c'est juste qu'en fait, le problème, il n'admet peut-être pas de solution, c'est tout simplement. Et après, il y a d'autres raisons derrière. Pour la voiture automatique, il y a les raisons d'assurance, des choses comme ça, mais ça, c'est un autre problème. Mais, oui, et là, est-ce qu'on n'est pas dans un même truc, tu vois, dans le même point où finalement, on est au summum de la pique, là, tu sais, la courbe, la cloche qui remonte et qui redescend. On est au summum et donc, plus personne n'est rationnel. Et puis, nous, on se fait peur. Pour rien.
Mais toi, quand c'était le métavers, on nous poussait effectivement à Jussieu, on est venu nous expliquer qu'il fallait absolument déposer des projets de recherche en lien avec le métavers. C'était il n'y a pas si longtemps. Mais il n'y a pas trop d'impact au sens où quand ça ne suscite pas des investissements matériels énormes.
Je suis d'accord. Alors bon, il y en a un petit peu quand même, parce qu'il fallait des casques et tout le bordel. Ouais. Ça a un coût, ce truc-là. Ouais. Parce que, ne serait-ce que, je suis désolé, mais un casque de VR, c'est de la 3D, donc c'est un GPU. Alors, ce n'est pas les mêmes, mais c'est des GPU aussi. Il faut des data centers parce qu'en fait, le process, il tourne sur une machine derrière, il ne tourne pas en local. Donc, il faut la communication sans fil, il faut tout le bordel. Donc, alors, heureusement, ça n'a pas bien marché. Là, on est dans un autre truc, mais...
Mais là, ce que je note avec le sommet macronien sur l'IA, c'est que, de manière à la fois rassurante et inquiétante, on n'a pas du tout négligé l'aspect matériel et énergétique de l'IA. C'était au contraire au premier.
En fait, on n'a parlé que de ça. Ouais. Mais si tu remarques ce qui s'est passé, c'est que, donc 2 semaines avant, tu as Trump qui fait son annonce, qui met son bol sur la table en disant je lâche 500 milliards, pas des barres, c'est 500 milliards pour l'IA. Bon, on ne sait pas d'où vient ce chiffre, on ne sait pas sur combien de temps, on ne sait pas ce que ça concerne. Si, en fait, on sait ce que ça concerne. Ça parle des infrastructures. Ce n'est pas de la R&D, c'est de l'infrastructure. Donc, c'est les data centers, c'est du câblage électrique, parce que le problème aux États-Unis, c'est qu'ils ont un système de diffusion électrique qui est assez pourri. Donc, il faut tout refaire. Donc, ça s'embarre. Donc. Et là, tu te dis, bah, finalement, avec l'usage qu'on a, là, on est tous avec nos téléphones, quand on fait une requête sur notre téléphone, ça va où, ce truc-là? Ça va par la 4G, ça va dans un data center, ça revient. IA ou pas IA, on crame des masses pour notre téléphone, quoi. Tu vois, le coût d'une requête Google, c'est du délire. Hein. Ça, on le sait depuis longtemps.
Ouais.
Donc, de toute façon, l'usage du net, ça va pas aller en descendant. IA ou pas IA. Alors, l'IA, on rajoute une couche, je suis d'accord. Mais...
C'est multiplié par 3, je crois.
Ouais, mais de toute façon, là, on consomme pour rien. Enfin, tu vois, quand je vois les mecs, ils ne peuvent même pas descendre s'acheter tu vois, un burger, ils sont obligés de le faire sur l'app. Et, bah, ça coûte quoi, ce truc, quoi. Et le truc, ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il y avait ces 500 milliards lâchés par Trump. Bon, allez, pouette, tralala, on va lâcher ça. Après, tu as le sommet l'IA, tu as Macron qui fait 109 milliards. Pourquoi? Pour l'infrastructure aussi. C'est pas pour la recherche, c'est pour l'infrastructure. Et au même moment, entre les deux, tu as DeepSeek qui sort son truc et qui n'arrive pas en disant on a un meilleur modèle que tout le monde. Ils n'abordent pas le sujet du modèle qui est en fait ce qui intéresse les scientifiques. Il dit nous, on consomme moins. Et il a joué au jeu. Et en fait, moi, je n'ai pas vu, parce que techniquement, on s'en fout un peu du DeepSeek. Il n'est pas mieux ou moins bien que les autres. C'est un modèle aussi foireux que les autres. Enfin, ça marche un petit peu. Mais par contre, ils ont touché là où ça fait mal. Ils ont fait OK. Ok, nous, ça coûte moins cher. Moi, j'y ai vu les prémices de ce qu'ils ont fait de la guerre froide, des débuts de la guerre froide, où les Américains ont foutu à genoux les Russes avec le plan spatial. Et littéralement, ils ont joué à celui qui pissait le plus loin. Les Russes, c'est con, ils sont tombés dedans. C'est monté. Puis après, il n'y a plus eu un radis, tout ça. Et je pense que Trump, pour moi, enfin, j'en sais rien, mais je me dis, Trump, il a voulu faire pareil. Genre, allez, les Chinois, on va jouer. Puis les Chinois, ils ont fait, OK. Et ils tombent sur ce modèle comme ça, et puis il y a un gros buzz, Nvidia perd 15% en truc, ça fait flipper tout le monde, parce qu'en fait, en ce moment, c'est fébrile, hein. Tu sais, les investissements, Microsoft a foutu 20 milliards dans OpenAI, c'est énorme, tu vois, 20 milliards, c'est comparé aux 500 milliards, finalement, il y a un facteur 20, c'est tout. Et donc, en fait, là, je pense que les gens qui sont derrière, ils se disent, ah ouais, mais tu vois, c'est fragile, ça peut se casser la gueule vite, les investissements sont absolument pas évidents, les usages... et le retour sur investissement ne sont pas évidents non plus. Tout le monde a essayé ChatGPT, mais finalement, tu l'as essayé gratos. Tu es prêt à payer pour cette feature? Pas sûr. Et là, ce que fait Microsoft, c'est qu'ils filent en freemium GPT-4 ou grosse boîte pour faciliter l'usage. Et alors, bon, après, c'est pour les nacés, dans une technologie pour pas qu'ils puissent s'en sortir. Ça, c'est bon, c'est une vieille histoire de l'informatique. Et puis après, ils vont faire monter les prix. Mais je suis pas sûr que c'est pas évident que toutes les boîtes soient prêtes à payer pour cette feature-là qui, pour l'instant, a pas prouvé ce qu'on appelle la ROI, Return on Investment. Il n'est pas clair.
Et 109 milliards, vous parlez.
109 milliards, mais c'est d'infrastructure. Et c'est data center.
Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'argent qui est investi. Donc, en partie, en tout cas, ça vient de pays du Golfe. C'est de...
Il y a la Norvège aussi, je crois, il me semble.
En tout cas, c'est pas de l'argent public. C'est pour construire dans l'infrastructure. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va peut-être servir à construire des bâtiments en France, sur le territoire français. Mais c'est surtout pour acheter du matériel, justement, des cartes Nvidia, des trucs comme ça, qui sont fabriqués ailleurs. Donc, c'est pas de l'argent qui va rester en France, majoritairement. Hein. Ce qui va coûter très cher, c'est les machines qu'on met dedans. Et pourquoi est-ce que ces gens viennent ici? C'est la question que je pose ici dans la question 1 du PAD. C'est manifestement, là, c'est un truc à discuter, mais moi j'ai laissé traîner mes oreilles là, dans ce sommet. J'ai assisté à la partie scientifique du sommet. Manifestement, l'idée, c'est qu'en France, il y a de l'énergie nucléaire et que donc elle est réputée stable, solide, etc., etc. Et c'est ça qui attire ces personnes-là. Alors,
moi, j'ai une petite question de précision. Quand tu dis j'ai assisté à la partie scientifique du sommet, tu peux expliquer comment se construit le sommet?
Oui, alors donc, il y a un véritable sommet qui avait lieu la semaine dernière au Grand Palais avec des stars et aussi des grands scientifiques.
20 000 balles le ticket pour entrer.
Voilà, ouais, peut-être qu'il fallait...
Entre 20 et 50 000 balles pour entrer.
Mais il y avait deux jours de colloques scientifiques juste avant sur le plateau de Saclay. Et comme vous savez, je suis un passionné du plateau de Saclay. Et j'ai été écouter des conférences, disons, de cette partie scientifique, avec là aussi des grandes stars de la science, des gens qui ont eu des prix et qui sont aussi donc des leaders de la recherche. Et c'est très souvent aussi des gens qui sont des investisseurs dans des start-up. Donc il y avait quand même une forte saveur business quand même. Mais il y avait de la place aussi pour la recherche en sciences humaines, il y avait de la place pour la recherche critique. Sur l'IA. C'est assez typique de ce genre de truc. Bon, c'était critique, mais très mollement critique. Hein. Il y avait donc toute une matinée consacrée, par exemple, aux enjeux écologiques de l'intelligence artificielle, avec certains exposés intéressants et d'autres, malheureusement, complètement bullshit, du genre un chercheur qui utilise l'IA pour étudier, pour faire des méta-analyses d'articles qui parlent de... voilà, et puis... Bon, bizarrement, il aboutit à la conclusion qu'il y a du pour et il y a du contre. C'était extrêmement mollasson. Mais il y a eu d'autres personnes qui se sont composées des questions énergétiques, aussi des questions de droit. Hein, c'était assez intéressant. Finalement, la personne la plus critique venait du milieu de la recherche en droit sur les questions légales et les... Et comment essayer de maîtriser l'évolution de cette technologie par des régulations. Mais néanmoins, sa conclusion, c'est que c'était possible de réguler le truc. Voilà. Bon, c'était une conclusion un peu optimiste. Et puis ensuite, à midi, arrive le ministre de la Recherche. J'ai oublié son nom. C'est un ancien PDG du CNES. C'est un ancien informaticien. C'est un type... qui a une double casquette. Il a travaillé dans la recherche et aussi dans la gestion de la recherche. Et puis, il arrive avec cet investissement. Ce jour-là, c'était seulement entre 30 et 50 milliards d'argent émirati. Et tout de suite, il parle de la construction de ce centre de calcul avec un data center donc dédié au calcul intensif. Donc, par rapport aux data centers classiques que vous avez en région parisienne, qui ont besoin d'être près des réseaux pour diffuser des données, là, on peut trouver des endroits un peu excentrés. En France, quand il s'agit d'entraîner des modèles d'IA, ce n'est pas forcément les mêmes besoins que les data centers classiques qui stockent vos données. Et donc, en France, il y a manifestement au niveau d'EDF, des gens qui ont fait des calculs pour savoir combien de gigawatts on pouvait détourner de l'usage actuel de l'électricité vers ce genre d'application. Donc, de ce que j'ai compris, et c'est à confirmer, c'est des bruits de couloir, on pourrait trouver dans le mix énergétique français d'aujourd'hui, on pourrait trouver 6 gigawatts dédiée à ce genre d'usage. 6 gigawatts, hein, c'est la production de 6 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire en optimisant le réseau électrique français tel qu'il existe actuellement, qui est quand même sous pression, on nous dit, par moment. Mais ils ont l'air de dire qu'en mettant justement des centres de ce type-là dans les bonnes régions, on pourrait... l'investissement entre 30 et 50 milliards qui a été annoncé par le ministre, donc Philippe Baptiste, merci beaucoup, lui, c'est 1 gigawatt à lui tout seul. Et donc les autres investissements pour arriver à 109 milliards de la semaine d'après par Macron, moi ce que j'ai compté, c'est qu'il y a au moins déjà 2 gigawatts qui sont déjà annoncés. Donc on peut s'inquiéter, donc sur ce chapitre énergétique, on peut s'inquiéter de savoir si cette électricité n'aurait pas été mieux utilisée ailleurs, dans d'autres usages.
Parce que, il faut voir aussi que les 109 milliards sont... c'est sur combien de temps ?
Très bonne question.
10 ans, 15 ans ? T'as le temps de voir. Hein.
Très bonne question, mais...
Le problème que tu as en ce moment, c'est bon, tu as l'électricité, tu as le refroidissement, tu as le matériel. C'est que actuellement, il n'y a que des GPU qui tournent. Et GPU, il n'y en a qu'un seul qui les construit, c'est Nvidia.
Est-ce que tu peux un peu plus expliquer pour les noms...
Pour entraîner un modèle, les modèles de réseau de neurones existent depuis 40 ans. Moi, j'en étais amusé avec ça il y a une trentaine d'années là-dessus. C'était galère avant parce que tu tournais sur un processeur, un processeur comme tu as sur ton téléphone, qui sont, alors à l'époque, ils n'étaient pas parallèles, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des tâches en parallèle, ce qui raccourcit le temps. Depuis, il y a eu la loi de Moore, qui n'est pas une loi, la loi de Moore, c'était un accord entre les constructeurs de matériel informatique pour que la construction du hardware et du software aille de pair. Et donc, en fait, si tu remarques, tes processeurs classiques ne tournent plus, plus vite que 5 GHz depuis 10 ans à peu près. C'est arrêté, parce qu'on ne sait pas faire plus vite. On n'y arrive pas, parce que le gravage, ça dépend de la façon dont tu graves les processeurs. Là, on grave, je crois qu'ils ont annoncé 2 nanomètres, mais j'y crois pas trop. Là, le plus petit qu'on sait faire, c'est 7 nanomètres, et tu as atteint la limite physique où, finalement, tu dépenses plus d'énergie que tu en fournis pour pouvoir faire ton travail de transistor. Donc, ça ne marche plus. Donc, on ne sait pas faire. Donc, ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, tu as commencé à voir apparaître des multicœurs sur ton téléphone. Tu as les quad-cores, les octocores. En fait, tu en as des à 96 cœurs, machin. Donc, c'était pour distribuer le calcul en parallèle. Mais ça, c'est que tu distribues des tâches compliquées sur des cœurs différents. Pour faire du calcul de machine learning, pourquoi ça marche ? Oups, j'ai roté. Pourquoi ça marche ? C'est parce que, fondamentalement, un réseau de neurones, c'est des opérations très simples. Quand tu regardes un neurone, c'est mathématique, mais c'est des opérations très simples, linéaires. C'est-à-dire des plus, des moins et des multipliés, pas divisés. Et derrière, tu as ce qu'on appelle une fonction d'activation, mais qui se résout par des lookup tables, c'est pas grave. Et ces opérations très linéaires, en informatique, toutes les opérations au-delà de ça, ça coûte cher. Tu es obligé de faire... Donc, il faut avant tout calculer par des plus, moins et des multipliés. Comme ça, tu es tranquille. Et le truc, c'est que les réseaux de neurones, ils ont deux dimensions. Ils ont une dimension en profondeur. Donc, c'est des couches. On fait des traitements par couche. Bon, ça, tu dois faire l'une après l'autre. Tu n'as pas le choix. Par contre, sur une couche, tu vas faire plein d'opérations similaires sur tes entrées. Et ça, et comme c'est des opérations simples, tu dis, tiens, ça, je peux le paralléliser. Et pour paralléliser, il y a un truc qui était très cool, c'est les cartes GPU qui sont apparues il y a... Donc, c'est les, je ne sais plus ce que ça veut dire, Graphical Processor Unit, qui sont apparues il y a 20 ans pour le jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que quand tu fais du jeu vidéo et que tu as apparu, les premiers jeux vidéo en 3D sont arrivés, donc tu vois, les Doom. Doom, c'est quoi ? C'est une scène dont tu fais une rotation. Et en mathématiques, une rotation, c'est juste une multiplication de matrices. Donc c'est une opération linéaire, tu fais pouf, alors bon, il y a un cosinus, machin, mais ça tu t'en fous. Et en fait, tu fais des opérations. Et donc, pour avoir la fluidité de ta rotation de ton espace, donc tous les FPS, tous ces jeux-là, tu fais des opérations mathématiques qui sont des rotations. Et donc, ils ont développé ces calculs graphiques qui ne font que des opérations matricielles, mais massivement parallèles. Parce que c'est des opérations très simples. Donc, tu n'as pas, sur un GPU, tu ne peux pas installer un Windows, tu peux pas, ou un Linux, tu ne peux rien faire. Tu fais que des opérations de matrices. Et donc, le jeu vidéo avait ça depuis longtemps, donc on a eu super, mais le jeu vidéo... Et la propriété des réseaux de neurones, et pourquoi ça marche informatiquement, c'est parce que c'est simple, linéaire, et que ça peut rentrer massivement sur un GPU. Quand nous, on entraînait des modèles il y a 30 ans, C'était 3 semaines d'entraînement. Quoi. Parce que c'était sur un seul processeur qui faisait tous les calculs, il faisait pic, et là tu fais poum, d'un coup. Après, tu es obligé de le faire. Bon, bref. Et d'où, et comme les constructeurs de GPU, on fait des cartes bien mastoc, là, depuis, quand tu regardes les cartes il y a 10 ans, et puis celles maintenant, c'est fat. Les dernières cartes GPU, elles ont une puissance de taré pour faire des calculs parallèles. Et donc, tu peux te permettre maintenant, et c'est ce qui s'est passé, c'est l'inflation de la taille des modèles. Les modèles que tu pouvais faire il y a 5 ans, ceux de maintenant, il y a 5 ans, les plus gros modèles avaient 100 millions de paramètres. 100 millions de paramètres, ça veut dire que tu dois faire 100 millions de calculs à chaque fois que tu demandes une inférence, c'est-à-dire un traitement. Et le dernier, le GPT-4o, il est à 470 milliards, je crois, de paramètres. Milliards. Donc, c'est énorme. Et pour une inférence, c'est-à-dire que tu fais un poète-poète, tu demandes quel temps fait-il, et tu as 700 milliards d'opérations qui sont faites, au moins. C'est 700 milliards de paramètres qui sont traités, donc tu multiplies par 2-3 le nombre d'opérations et ça te fait à peu près le truc.
Ça, c'est même quand on fait des requêtes. C'est pas juste la phase d'entraînement qui...
Ah non, je te parle que de l'inférence. Oui. Mais par contre, tous ces 400 milliards, il faut les trouver. Oui. Et donc, pour les trouver, il faut que tu... Parce qu'en fait, ces 400 milliards, quand tu entraînes un modèle de réseau de neurones, alors tu as des techniques pour ne pas partir de zéro, mais en général, tu pars pas loin de zéro. Donc, tous ces 400 milliards sont random. Et tu lui files à bouffer des données et tu lui dis, apprends ces trucs-là. Et donc, c'est la méthode, ce qu'on appelle la backprop. C'est une méthode numérique mathématique très connue depuis très, très longtemps, en fait, assez bête, qui va faire bouger chacun des 400 milliards de paramètres un tout petit peu, comme ça, pour essayer de trouver la solution qui fit à toutes les données que tu lui donnes. Donc, il faut beaucoup de données, pas trop. Alors, après, c'est toujours un bordel de savoir combien il en faut. Et puis, il faut beaucoup de temps, parce que le truc, il va converger très, très lentement. Et donc, je crois que GPT, c'est 3-4 mois d'entraînement non-stop, avec 10 000 GPU en parallèle. Donc, 10 000 GPU. Hein. Donc, un GPU, ça permet de déjà calculer. C'est bien balèze. Là, tu en avais 10 000 qui tournaient. Ah ouais. Je crois que c'est 3 mois, il me semble. Trop, 6 mois, je ne sais plus. L'ordre de grandeur, c'est ça, quoi. Pour entraîner GPT-4. Alors qu'un modèle tout bête, un ResNet ou un truc comme ça, ça tourne sur un PC, tu peux l'entraîner sur un laptop. Un truc pour identifier les chats et les chiens, c'est un ResNet 18. Tu le fais tourner sur un laptop comme ça, tu le fais entraîner en une demi-heure, c'est fait, quoi. Avec les processeurs maintenant, pas avec ceux-là.
Donc c'est intéressant ce que tu dis, ces milliards d'opérations, même si on perfectionne les appareils, il y a des limites physiques qui nous disent qu'il y aura toujours de l'énergie nécessaire pour les faire. Ouais. Elles ne seront jamais gratuites. Et donc, je n'avais pas pris conscience de l'énormité des calculs qui sont faits à chaque requête.
Parce qu'il y a la phase d'entraînement qui est une chose, puis il y a la phase d'inférence qui est vraiment le quotidien. Dès que tu fais pouet-pouet, tu tapes un truc, ça passe dedans. Donc, et ça veut dire que... Et alors, cerise sur le gâteau, c'est que... Alors, GPT-4, je ne sais plus combien il fait de gigas, mais il fait 120, 130 gigas de... Donc, c'est l'intégralité des paramètres. Donc, sachant qu'un floating point, c'est je ne sais plus combien de bits, machin. Souvenir, c'est la 150 gigas. Donc, il faut un GPU ou alors des GPU qui stockent 150 gigas, c'est beaucoup, de mémoire, pour pouvoir... Je crois que c'est l'ordre de grandeur que j'ai, pour pouvoir faire ton truc. Donc, il faut l'avoir, la mémoire, quelque part. La mémoire, c'est de la RAM. Alors, c'est de la DDR, machin, mais... Bon, voilà. Donc, il faut un truc. Autant dire que ça ne marche pas. Là, sur les GPU que tu as là-dessus, tu as 4 gigas, 8 gigas, grand max. Pas 150.
Donc, du coup, cette question énergétique, même si on fait beaucoup, beaucoup de progrès, le fait que la généralisation de l'usage telle qu'elle est... avant que tu arrives, j'expliquais qu'on nous pousse vraiment à utiliser, on nous dit que c'est génial, il faut vraiment y aller.
Ouais, alors en fait, il y a aussi ce truc c'est cool, je vais essayer. Enfin, on a tous essayé n'importe quelle connerie. Donc, puis c'est d'autant plus drôle que ça marche pas très bien. Donc c'est encore plus addictif. Moi, je me suis trop amusé à essayer de... Tu vois, tout le monde s'est amusé à lui faire sortir des conneries à GPT-4. Finalement, c'est drôle, tu lui racontes une blague. L'autre qui sortait, qu'est-ce qui est marron et qui pousse au fond du jardin? Tu vois, la vieille blague, et il discute avec GPT pour... et puis l'autre qui dit, c'est un scout qui fait caca au fond du jardin. Et en fait, c'est une espèce d'échange comme ça, mais c'est hilarant. Et tu dis, finalement, avoir de l'humour avec la machine, pourquoi pas? Mais ça coûte cher, en fait. Ça coûte cher, ce truc-là. Et tout le monde y va, pas pour un usage vrai, mais pour un usage... récréatif pour l'instant. Mais le problème, c'est parce que c'est gratuit. Le jour où on va te demander de payer pour ça, je pense que tu le feras, moi. parce qu'on est habitué à gratuit depuis 20 ans d'Internet, on est trop habitué au gratuit. Et je ne suis pas sûr que les gens paieront pour ça, quoi.
Et en termes de quantité d'eau, comment ça a présenté aussi
Alors ça, les chiffres, je ne sais pas. En fait, il faut voir, il y a l'électricité, il y a la flotte. Donc ça, c'est pour la phase d'entraînement des modèles. Bon. Ça, c'est un one shot, tu le fais une fois. Ensuite, il y a l'usage quotidien. Donc, à chaque fois que vous faites une requête, ça passe par là-bas. Mais c'est pareil pour les data centers de Google. Hein. Dès que vous faites une requête, ça coûte, c'est pas gratuit. Et puis, il y a le coût caché qui est tout se mettre ce hardware. Ce hardware, il n'est pas donné, il n'est pas fait avec en bout de bois. C'est des terres rares, c'est énormément de trucs. Et là, si la demande de GPU, qui est l'unique source fait par un unique fabricant, continue, va falloir les trouver, hein, les terres rares pour le faire. C'est pas...
Et vis-à-vis d'une requête Google et une requête ChatGPT, c'est quoi la différence?
J'ai lu un facteur 3 au minimum.
Oui, ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais ça coûte quand même.
Moi, je voudrais dire un truc sur la consommation d'eau, parce qu'on lit grosso modo que ça coûte un demi-litre d'eau évaporée à chaque fois qu'on fait une requête. J'en sais rien. Il faut comprendre que l'utilisation de l'eau, c'est un truc qui est généralisé dans toutes nos pratiques. Porter une chemise en coton comme celle que j'ai actuellement, c'est énormément d'eau. Consommer de la viande, c'est énormément d'eau dans des proportions considérables. Pour la consommation d'eau, c'est frappant de dire qu'on évapore un demi-litre d'eau à chaque fois qu'on joue avec ChatGPT, mais il faudrait mettre en rapport avec d'autres activités quotidiennes.
Il y a aussi l'ordre de grandeur, tu crames une ampoule à chaque fois que tu fais une requête Google. Il y avait ça aussi en termes de consommation. C'est comme si tu brûlais une ampoule dès que tu fais une requête Google d'énergie. C'est quelle énergie tu fais pour cramer une ampoule?
D'accord,
et
mais une ampoule.
Et ça, c'était.
Tu parles en.
Alors, pas une
des vieux,
pas une
ampoule.
Les
vieilles
ampoules,
ampoule, finalement.
Oui. Alors, possible. Et d'ailleurs, tu as déjà été, par exemple, dans l'usage quotidien qui n'a rien à voir, mais j'ai vu un espèce de crétin sur Internet une fois qui avait branché son vélo d'appartement sur un grille-pain.
Oui, oui.
Et ben, t'as plus envie de manger du pain grillé après.
Hein. C'était un champion de vélo qui a fait ça.
La vache. Pour griller une tartine, quoi.
En tout cas, ce que va faire l'industrie, c'est qu'elle va mettre en avant les progrès considérables en optimisation de l'usage de l'énergie. Je pense que c'est assez crédible qu'ils vont réussir à diminuer la consommation des machines. Mais en même temps, les mêmes personnes vont nous encourager à utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ces services. Et d'ailleurs, il est à craindre que si précisément ça coûte moins cher de les utiliser, on les utilise encore plus. Donc c'est un effet rebond classique, en fait.
Ouais, alors moi, je suis un peu, je ne sais pas trop, parce que là, pareil, tu vois, comme c'est la célèbre courbe, c'est la belle curve, la courbe de technologie qui fait qu'une adoption de technologie, ça fait, je le fais en sens inverse, ça fait hop, ça monte comme ça, puis après ça redescend, puis après ça monte lentement. On parle de ça, toutes les technologies, c'est pas... Bon, c'est vrai qu'on le constate un peu, et c'est vrai qu'il y a toujours un buzz pour toutes les technos, quelles qu'elles soient, où ça monte, et là, je pense qu'on n'est pas loin du sommet, où ça devient un peu irrationnel, ça devient un bien. Et puis, finalement, après, ça se décante. Pourquoi ça se décante? Parce qu'il y a des investissements qui sont faits énormes. Il n'y a pas de retour sur investissement des acteurs. Il faut voir aussi, il faut se mettre dans la position des gars qui ont foutu ce pognon là. Ils veulent un retour. Et il y en a beaucoup qui se plantent et qui vont disparaître. La Intel est en train de disparaître, par exemple, en ce moment. Plus gros constructeur de CPU, il est en train de se faire démanteler. Il va être associé à TSMC, par exemple.
Ah oui.
Donc, c'est un peu, tu vois, un changement de paradigme. Mm-hmm. ARM, qui ouais. faisait les processeurs, va commencer à en faire. Qui vendait des licences de processeurs et pas des processeurs. Mm-hmm. Allez dire, ah bah tiens, on va commencer à en faire. Donc, le monde, il est en train de changer. Et puis, les investisseurs qui sont derrière, qui sont des gens plutôt du soft, les GAFAM, typiquement, eux, ils sont en aval. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de hardware, ils ne peuvent rien faire. Ils ont fait des investissements derrière et ils ne savent pas trop où ça va aller, en fait, parce que le marché du consommateur, ce n'est pas forcément un truc auquel tu peux faire confiance. Tu peux avoir des buzz, comme le téléphone portable. Bon, tout le monde est tombé dedans. Quand il y a eu les premiers iPhone, tout le monde est tombé dedans. Bon, on est tombé à sauter un pied joint. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des technos qui ne marchent pas. Et donc là, par exemple, Microsoft, ils font... ils inondent la planète de ChatGPT, puis par ailleurs, ils font un autre truc qui est Copilot, par exemple. Ils inondent les entreprises de Copilot en freemium, en gratos, hop, c'est cadeau, pour forcer les gens à une adoption, parce que c'est ça la clé, en fait, c'est une adoption. Tu ne peux pas forcer les gens sont un peu rétifs, et surtout dans le milieu des devs, les gens sont très très font ah non, fais chier, j'ai pas envie de faire spoiler mon taf par Copilot. Et puis on te le donne gratos, t'essayes, tu fais ah ouais, c'est pas mal. Bon, après tu t'aperçois que c'est pas si pas mal que ça. Ça t'aide à des tâches à la con. Mais par contre, tu ne peux pas faire confiance. Mais ils l'offrent en freemium parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire payer parce que sinon ça ne rentrera pas. Et donc l'adoption, elle est très très compliquée. Et c'est, tu vois, il y a des théories dans toutes les boîtes d'informatique comme ça, c'est comment tu fais adopter ton truc. Et je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile et aussi, tu vois, aussi évident.
Là, en parlant de Microsoft, il y a un article qui fait le buzz, peut-être vous l'avez vu passer, mais qui vient de la recherche de Microsoft. Mais c'est plutôt une recherche de type psychologie expérimentale sur 900 travailleurs de, comment ils les appellent, qui ont une activité intellectuelle. Non, c'est seulement 319 knowledge workers. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un knowledge workers, mais bon. J'imagine que c'est dans leur entreprise.
CSP+, ou je ne sais pas.
Voilà, bon, ouais. ils ont testé. Ce que ça change de travailler avec une IA, ils arrivent à la conclusion, je vais aller directement en bas de l'article, c'est assez flippant, mais c'est assez rigolo de voir que c'est donc la recherche de Microsoft qui produit ce genre de truc.
Oui, mais ils sont jugés partis. Le truc, c'est qu'ils sont jugés partis, donc est-ce qu'ils auraient pu dire l'inverse ? Enfin, faut toujours, c'est comme...
Non, attends, tu vas voir la conclusion, elle est frappante, ça, c'est une conclusion flippante, hein, qui dit que leurs travailleurs perdent... esprit critique et capacité de...
Bon, bah alors, ils sont honnêtes.
Non, mais...
Il y a eu la même chose pour les copilotes, c'est qu'ils sont aperçus que le low-code, no-code, machin, avec ces trucs-là, dans les process des grosses boîtes, souvent, c'est tout est urgent, donc tu dois absolument pondre des trucs en permanence, machin, et donc les devs sont en permanence en train de faire un truc rapide, et souvent, surtout dans les boîtes qui ne marchent pas, en fait, c'est ce qui prime, c'est de montrer à ton chef que tu as fait un truc. Donc, tu commites sur Git en permanence, là, pour dire j'existe. Et le truc, c'est que ça accélère, c'est pas Copilot, ça accélère, machin. Ça accélère de pondre des bouts de code, des trucs simples. Je ne sais plus qui disait.
Là, leur conclusion, c'est que ça accélère l'efficacité des travailleurs. Mais par contre, ça inhibe l'engagement critique. Je traduis très mal l'anglais, je suis désolé. Dans le travail, c'est-à-dire qu'ils ont fait des tests avec justement les erreurs qui sont rendues par ces softwares. Et donc, ça inhibe l'engagement critique. Sur le long terme, ça va avoir des effets de surconfiance dans l'outil. Et ça va diminuer les compétences de problem solving de manière indépendante. Et donc
ça va créer de la dette techno, la dette technologique qui est l'enfer de toutes les boîtes qui voient à court terme, c'est faire du court-termisme et puis en fait s'apercevoir. Après, souvent il y a les changements de manager, donc c'est le suivant qui va morfler. Mais de voir que, tu vois, j'avais vu des codes qu'on avait écrits au CERN il y a 30 ans qui tournent encore. Tu vois, dans n'importe quel... Alors, dans les banques, c'est pas le cas, mais dans d'autres boîtes qui sont industrielles, après 6 mois, le truc, il est buggé, il marche plus, et ils sont en train de mettre des bouts de scotch et tout ça, et c'est... Toute l'industrie, elle est souvent faite comme ça. Et bizarrement, pas qu'en France, hein, aux États-Unis aussi, parce que c'est des dettes techno qui s'accumulent. Là, le problème de ces copilotes, de ces aides au développement, c'est que ça crée des bugs. Et si t'as... des jeunes devs qui ne sont pas très compétents, ils laissent passer le truc, et en fait, tu passes 24 heures à débugger la merde que tu as créée Copilot. Alors que tu aurais mis 6 heures peut-être à le faire, et en fait, tu mets 24, tu l'as fait en un quart d'heure, mais par contre, tu as 24 heures de débug, et débug, c'est relou, parce que débugger des codes que tu n'as pas fait, c'est toujours l'enfer. Tu n'aimes pas débugger les choses des autres. Et alors, quand c'est en une machine, c'est encore pire. Et là, moi, je me suis amusé avec Copilot à me demander des petites fonctions. Il me sort des librairies qui n'existent pas. Il me fait « Ah, il faut importer cette librairie », mais elle n'existe pas. Et je ne sais pas d'où il sort ce truc-là. Et en fait, tu perds un temps fou. Le truc, c'est que la mesure du retour, alors toutes ces boîtes-là, elles veulent avoir une mesure paramétrique du retour sur investissement. Ça vous fait gagner combien de temps ? Alors, ils te sortent des chiffres à 3 décimales derrière la virgule qui ne veulent rien dire. Mais personne, la plupart des devs, ils ne vont pas dire... Enfin, tu crois que tu mesures ton temps à faire ton dev, non, tu ne mesures pas, personne ne le fait. Et en général, quand tu gagnes du temps, et alors après, ce qui est marrant, c'est que le calcul de la productivité, c'est qu'un dev qui gratte son travail plus rapidement, il ne va pas bosser plus, il se barre plus tôt, c'est tout, donc il n'y a pas de gain de productivité. Le mec qui va, j'ai fini ma journée, paf, je me casse. Et c'est ça qu'ils aperçoivent, parce qu'en fait, c'est, C'est pas. Et alors après, il y a un aspect psychologique, c'est que ça fédère pas les gens autour d'un projet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu fais du dev, alors je sais pas, il y en a plein qui. Enfin, moi j'aime bien, pour moi c'est un peu de l'artisanat, j'aime bien, enfin, j'ai toujours été ça, c'est comme faire un truc de Lego, quoi. J'aime bien construire mon truc. Mais si jamais on me file la boîte toute faite, bah, je trouve pas ça drôle en fait. Et j'aime bien faire un beau truc de Lego bien marrant, quoi. Et beaucoup de devs sont comme ça aussi. Ils aiment bien construire un truc.
C'est un changement anthropologique.
Je suis pas sûr. Moi, je suis pas. Enfin, je laisse la porte ouverte. Je suis agnostique sur le sujet. Je suis pas convaincu encore que ça va submerger tout.
En tout cas, moi qui travaille dans l'enseignement, je vois que ça change complètement le rapport à la vérité. On pourrait dire que c'est le numérique dans son ensemble, c'est ce que je crois en fait, qui change beaucoup de choses. Mais là, ça accélère encore beaucoup plus. Et c'est fascinant de voir avec quelle vitesse hein, ces outils se sont propagés chez les jeunes. Et donc typiquement maintenant, quand on fait des interros, non seulement on interdit les outils genre téléphone.
Il faut le faire à l'oral, il faut faire de l'oral.
Oui, on leur demande même d'enlever leur montre, parce que maintenant il y a des montres connectées qui permettent de prendre des photos et d'envoyer et d'écouter la réponse.
Ouais, bon, après, on a tous cru en au bac. Hein. Moi, j'ai fait des antisèches aussi, donc c'est pas grave. Ouais. Mais...
non, mais bon, c'est très étonnant que ça engendre une envie, enfin, chez nous tous, mais je pense que ça peut être très, très problématique chez des jeunes qui sont en train d'apprendre, de déporter sur la machine. Un peu comme on a fait avec la calculatrice.
On a fait avec la calculatrice, on a fait avec le téléphone. Ouais, la
calculatrice, au moins, te renvoie un résultat correct.
Ouais, bon, après, il y avait le bouillet. Le bouillet, ça existait avant, donc ça fait longtemps. Mais tu vois, le téléphone, on ne se souvient plus du numéro de téléphone maintenant. Parce qu'on a plus ça, la mémoire. On a déporté notre prothèse mémorielle. Oui. Les iTunes, les Spotify, moi, je ne me souviens plus du tout, mettons, de qui joue quoi quand j'écoute de la musique, parce que je ne fais plus gaffe. Ça appartient à un album, je ne sais pas. En fait, donc, j'ai déporté ce truc-là. Photo, pareil, photo numérique. Mettons, tu regardes l'écran, tu ne regardes plus le sujet. Mmh. En fait, à chaque fois, ces technos, elles te déportent une petite partie quand même à l'extérieur. Là, c'est l'écrit et c'est le parler, je suis d'accord.
Et là, c'est des outils qui amplifient cela. En fait, c'est juste un multiplicateur. C'est un effet multiplicateur important. Ça va très, très vite. Ça se propage extrêmement vite. Est-ce qu'on est capable d'absorber un choc, en particulier de changer le système d'enseignement, de l'adapter à ce truc facilement? C'est vraiment. Je pense que personne n'a les idées très claires là-dessus, sauf ceux qui veulent nous vendre des technos à base d'IA.
Le truc, c'est que quand le gouvernement fout ses pieds là-dedans, en général, ça se termine mal. Moi, pour avoir commencé l'informatique dans les années 80, où il y avait les premiers plans, c'est les TO5, les Bulmicra, les Logabax, tu vois, toute l'industrie informatique française qui a déferlé dans les écoles. Et là, tu te retrouves avec des profs de maths qui ne savaient pas comment utiliser ce truc-là. Et puis, en fait, quand tu étais dedans, tu disais, je peux faire print, bonjour, so what, quoi. Non, c'était pathétique, quoi. Et parce qu'il n'y avait rien derrière. Bon, ça se termine mal, en général, ce truc-là. Enfin, c'est pas parce qu'on n'est pas... Oui.
Et j'avais une question en particulier concernant le recrutement. De plus en plus de personnes utilisent ChatGPT pour le CV, l'aide de motivation optimisée.
La lettre de motivation, enfin, j'ai envie de te dire la lettre de motivation, enfin, parce que putain, je sais pas si tu as écrit des lettres de motivation pour te lever, mais quelle connerie, tu vois, je suis super motivé, je veux juste être payé, quoi. Donc, ça fait chier, quoi. Et d'ailleurs, dans certains domaines, tu n'as plus de lettre de motivation. Moi, dans mon domaine, l'informatique, on ne demande plus ça, quoi. En fait, on fait une réunion en one-to-one, et puis tu parles, et puis le mec, il voit ça. Mais ça n'existe plus, la lettre de motivation, dans certains domaines. Peut-être dans d'autres, mais...
Et en tout cas, les recruteurs utilisent les algorithmes pour passer les CV et tout.
Il y en a qui aussi,
pour savoir si la personne, en tant que prof, utilise ChatGPT, il y a des méthodes aussi pour identifier, etc. Et donc, je voulais avoir votre point de vue sur le sujet, sur ces sujets-là, en fait. Et moi, je faisais partie de l'espace régional de concertation à l'éducation, à l'environnement et au développement durable. Et évidemment, il y a eu un mail, une consigne, comme quoi maintenant, si les personnes utilisaient déjà GPT, ce n'était pas écologique. Donc, tous les CV, lettres de motivation qu'avait utilisé cet outil et ben fallait les bannir parce que du coup c'était pas écologique.
Alors, comment tu le sais, c'est vachement dur, hein. c'est super dur à voir. L'aide de motivation, bon, de toute façon, moi, quand j'ai créé les motivations, je faisais un copier-coller de ce que je fais sur le net, donc bon, c'est un copier-coller, donc pourquoi ça... En fait, il faut arrêter de l'aide de motivation. Tout court, ça n'a pas de sens, c'est nul par personne, on s'en fout quoi. Le CV, bah le CV, si jamais si elles peuvent mettre une mise en page plus clean, pourquoi pas, tu vois, mais en fait t'as pas besoin de ça, mais on s'en fout en fait aussi le CV, tu vois, c'est pas... par contre, alors dans l'enseignement, tous ceux que je connais qui sont enseignants et qui demandent des rapports écrits et qui se retrouvent avec 10 rapports avec des bouts, des chunks qui sont les mêmes, ça c'est l'enfer. Alors, le copier-coller existait avant, hein. faut pas se leurrer non plus. Hein. Donc, là, c'est juste que c'est un petit peu rephrasé tout ça. Ça fait en plus un texte qui est plat, qui est chiant, qui est même pas, peut-être même pas revu par la personne, donc il y a des conneries. Bah, faut peut-être se penser à arrêter de demander aux gens d'écrire, je sais pas. Ou alors, tu demandes manuscrit. Ah, vas-y, reprends le stylo pour voir. Le truc, c'est qu'on s'est forcé. Moi, j'ai mes gamins à l'école. Tu vois, la région Île-de-France, elle file un laptop à tous les gamins du collège. Donc, en fait, elle a mis le pied dedans en filant un laptop. Ouais.
Un laptop, c'est quoi ?
Un ordi. Et donc, en fait, tous les gamins sont... Et donc, moi, je retrouve avec mes gamins. Mais ils sont tout le temps sur l'ordi. Ah, faut que je regarde mon calendrier, mon agenda demain, si jamais j'ai le devoir et tout ça. Eh, hey, stop, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a plus de carnet de texte, il n'y a plus rien, tu vois. C'est aberrant, quoi. Et donc, tu les as mis dans ce truc de l'écran, super, mais je pense que les enseignants, ils doivent revenir à l'analogique, hein, je pense. Hein. Il n'y a pas de solution, tu reviens à la voix et au stylo, et puis tu vas voir, ils vont galérer, c'est très bien.
J'ai une amie qui est prof dans un lycée catho, elle a carrément un élève qui a hacké le système de notes.
Ouais. Mais ça c'est pas. Non mais ça. Ouais, mais ça c'est pas nouveau non plus. Tu vois. Ça, pff, donc là c'est pas. C'est.
C'est... De manière informatique.
Ouais. Mais bon, ça c'est pas. Ça non plus. Ça c'est pas des choses qui sont de l'époque. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu un petit malin qui a réussi à faire. Super. En fait, en général, ils terminent bien après. C'est-à-dire qu'ils sont forts. Bon, très bien.
J'ai vu un échange sur Twitter. Juste une chose, ouais. Je fais un petit récap. Il y a des gens qui nous écoutent à la radio et qui essaient de réagir. Donc, merci de faire passer le micro. On fait tout ça dans le sens, parce que moi, je suis un peu bloqué derrière.
Pour le plus vite. Oui. Non, mais il est parti. Après, c'est sûr qu'il reviendra.
Petite pause. Donc, il y a des artistes dans la salle. Et la question a été posée tout à l'heure par quelqu'un, est-ce que l'IA permet de faire vraiment de la créativité au-delà de l'art pompier ? Donc moi, je prétends que oui. Voilà, peut-être on pourrait y revenir plus tard le moment venu. Toi, tu avais une question en lien avec...
C'était pour dire que j'ai vu un échange sur Twitter où, je ne sais plus c'était qui m'avait posté de base, mais quelqu'un parlait du fait que leur enfant avait 7-8 ans et... Non, ils avaient peut-être 10-11 ans. Enfin, ils rentraient dans l'algèbre à l'école et ils commençaient à juste faire leurs devoirs. Ils posaient toutes les questions à ChatGPT, mais même pas les plus dures, juste toutes les questions, même 4 égale X plus 2, ce genre de choses, et ils retranscrivaient les réponses sans y penser. Oula, et quelqu'un a posté ça. Et un chercheur ou un dev en IA, ils ont répondu, c'est intéressant parce que ça me fait... Enfin, ça fait que je me rends compte que finalement, ça va peut-être juste supprimer notre façon actuelle de faire des devoirs, de proposer des devoirs. En fait, vu que l'IA, les outils d'IA posent visiblement cette question-là de si c'est possible de faire ça avec la version actuelle de faire des devoirs, ça va peut-être rapidement bousculer vers... un modèle certifié par l'État est administré par l'éducation et ensuite c'est accessible depuis la maison, c'est accessible à l'école et il faut absolument que
pour
tous les devoirs soient...
On n'en est pas encore là parce que le problème qu'on a...
Oui, pour l'instant.
Déjà si on pouvait arrêter d'utiliser le mot IA parce que j'en peux plus. Ça n'est pas intelligent, c'est un peu comme il y a la sécurité et le sentiment d'insécurité. Là, c'est du sentiment d'intelligence, c'est pas de l'intelligence. Donc, je préfère utiliser le mot machine learning, comme ça on part d'un truc froid et concret. C'est juste.
Enfin, ChatGPT, quoi.
ChatGPT, c'est juste une fonction paramétrique. Il faut voir, un réseau de neurones, c'est une fonction paramétrique. Ça prend X en entrée, ça sort Y. C'est tout ce que c'est. Et c'est juste que ça a 400 milliards de paramètres. C'est tout. Et non, le problème avec ces trucs-là, c'est que fondamentalement, alors en plus, on parle de plein de choses. On parle de. Il y a ce qu'il appelle la GNIA, donc les GPT-4, c'est les générateurs de contenu. Les algos de réseau de neurones ont existé depuis belle lurette. En général, ça donne en entrée, tu donnes en entrée un texte, un son, une image, ce que tu veux, et puis ça sort, alors souvent c'est les classifications. Puis moi, je sélectionnais un chat d'un chien, je te file une image d'un chat, je te file une image d'un chien, tu lui fais apprendre, et puis au bout d'un moment, il te dit à 90%, j'ai un chat, j'ai un chien. Bon, ça, c'était... Là, la nouveauté, c'est qu'on fait des générateurs, donc on fait le cheminement inverse, je te donne une entrée, et je te demande de générer la sortie. Donc tu génères un texte, c'est ce que c'est GPT-4o, c'est DALI, c'est générer de l'image, tu peux générer du son, tout le bordel. Donc c'est vraiment un truc qui fait le cheminement inverse. Ces algos-là, et notamment pour la voix et le texte, donc c'est des modèles statistiques. Donc ça a appris, GPT-4, ça a appris toute la langue depuis les 6 derniers mois en scrapant tout Internet, principalement Stack Overflow, Reddit et des sites où il y a des questions-réponses pour les chats, parce qu'en fait, il faut que tu lui donnes pour apprendre la question de la réponse. C'est comme ça qu'il apprend. Donc, il ou elle, je ne sais même pas s'il faut dire il ou elle. Donc, tu dois avoir, donc c'est essentiellement des sites où il y a questions-réponses. Et moi, j'ai appris qu'ils avaient pris Stack Overflow, parce que Stack Overflow, c'est des devs qui posent des questions en général assez concrètes, et avec t'as la réponse assez concrète. Donc c'est pour ça que le langage est un peu chiant, plat, parce que c'est un langage de dev. Enfin, bon, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Et en fait, ces machines-là, donc elles apprennent ce truc-là, et en fait, t'apprends la langue de façon statistique. Donc GPT-4, c'est quoi? Ou les Llamas, ou tous les modèles, c'est juste des machines statistiques qui ont plus ou moins appris le bled. La grammaire française ou anglaise, ou comme ça. Ça a appris la grammaire. C'est tout ce que ça a fait. Ah putain, j'avais le micro qui tombe. Et ça, en aucun cas, il y a de l'intelligence, en aucun cas, il y a de la notion de causalité, de réflexion, rien. Ça a appris. Et puis, c'est bluffant parce qu'effectivement, tu lui demandes un truc et puis il te sort un truc qui est assez bien écrit. Enfin, bien écrit, c'est pas la poésie, mais c'est bien écrit. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de faute de grammaire. Pourquoi? Parce que ça a appris ça, en fait. Ça a appris statistiquement la façon dont nous, on parle, et ça te ressort le même truc. Et ça l'a remis dans son contexte. C'est-à-dire que si je parle de, je parle d'une pizza, il va te sortir un truc sur la bouffe et la pizza. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait statistiquement, il a vu que ça parlait la même chose. Ça n'est que ça. Donc, beaucoup de gens se laissent leurrer par une espèce d'intelligence derrière ou quoi que ce soit. Non. Alors, il faut bien voir, le wording, depuis 15 ans, il tourne toujours autour de l'anthropomorphisme de ces technos. Alors, peut-être que vous n'êtes pas... Enfin, il y a le mot intelligence artificielle, ça, déjà, c'est en soi, c'est un peu abusé. Mais dans le milieu, tu vois, ce qui est la petite brique dans les réseaux de neurones de GenAI, de GPT-4, c'est ce qu'on appelle les transformers, mais qui s'est appelé aussi le phénomène d'attention. L'attention, c'est un truc... Oula, c'est un truc... c'est humain. T'as des modules qui s'appellent le module d'inception, réseau de neurones. Et en fait, quand tu regardes, tu as toute une liste de termes, de terminologies qui te réfèrent à l'humain, alors que quand tu es matheux, tu dis « bah non, c'est juste une opération linéaire, quoi, avec une fonction d'activation. » Il n'y a que ça, en fait, c'est juste une fonction mathématique. Il n'y a rien de tout ça. Dans le Transformers, il n'y a rien qui correspond à l'attention humaine. Rien que dalle. C'est juste une pondération d'une phrase. Tu pondères les mots dans une phrase. C'est tout ce que tu fais. Je ne vois pas le rapport. L'industrie a vachement joué là-dessus pour que ça se distille une petite croyance. Je pense qu'il y a de la croyance, parce que ça vient pas de nulle part. Hein. Ça vient de la Silicon Valley, donc c'est quand même un pays de croyants, hein, les Américains. Donc ça a distillé comme ça cette croyance qu'il y avait un truc un peu derrière, un peu plus grand. Tous les gens qui parlent de l'intelligence générale, bon ben là ils sont encore à un sommet encore plus perché de vouloir absolument comprendre. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu manipules ces trucs-là, tu parles au quotidien, et ben tu peux pas t'empêcher d'utiliser des mots IA tout le temps. ça me saoule. Mais par exemple, quand tu regardes à l'intérieur d'un réseau de neurones et tu regardes le vecteur numérique, c'est juste un vecteur numérique qui correspond à la phrase que tu lui as sortie, et en général, tu le manipules, tu fais des bidouilles, et bien beaucoup de data scientists utilisent, parlent d'abstraction. Ils disent « Ah, c'est une abstraction de ma phrase ». Je dis « Mais vous savez ce que c'est que l'abstraction ?» L'abstraction, c'est une terminologie philosophique, quoi. C'est autre chose. C'est quelque chose de pas palpable. Mais néanmoins, les gens qui sont essentiellement des informaticiens ont tendance à basculer dans une discussion sur leur matière avec des termes qui n'ont rien à voir, en fait. Et c'est très marrant en ce moment sur les Generative AI de voir que, en fait, les vecteurs numériques sur l'intérieur, ben on dit que c'est une abstraction. Non, ce n'est pas une abstraction de la phrase. C'est-à-dire que le truc, il n'a pas compris de l'abstraction. Et parce que l'abstraction a un sens. C'est quoi pour nous l'abstraction? C'est de pouvoir généraliser les choses. Je te parle de nourriture, je te parle de pizza, je te parle de machin. Ben, tu vas pouvoir généraliser la propriété de manger à des champignons, à autre chose. C'est-à-dire que toi, je n'ai pas besoin de te montrer je te montre un exemple et tu peux le généraliser à autre chose. Tu peux, je peux te montrer, tu apprends à marcher, bah, tu apprends à skier. Bah, c'est la généralisation de ce que tu savais faire à autre chose. C'est ça la propriété intelligente d'abstraction, ce que nous on peut généraliser. Les modèles de réseau de neurones sont assez nuls en généralisation. Et en fait, tu as 15 000 exemples, c'est juste qu'en fait, ils ont appris sur tellement de data qu'il ne reste plus trop d'endroits où ces réseaux déconnent. Et c'est ça qui est drôle, c'est d'aller chercher là où ils déconnent. Et tu t'aperçois qu'en fait, ils n'ont rien compris, en fait, parce qu'il n'y a pas de compréhension du tout.
Et en traînant dans les couloirs là, du colloque du sommet pour l'IA, finalement, on n'entend pas grand monde, à part ceux qui ont des choses à vendre. Il n'y a pas grand monde qui pense qu'on va pouvoir continuer sur les technos de type ce qu'ils appellent des modèles de langage. Comme tu viens de le dire, c'est un modèle de texte. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le langage au sens avec toute la complexité d'une langue. Et par contre, ils parlent beaucoup d'embodiment, faire de l'apprentissage avec des robots en interaction qui sont capables d'avoir des senseurs, enfin, je ne sais pas comment dire en français, des senseurs, des capteurs, d'apprendre avec non pas juste en étant un pur réseau de neurones, mais d'apprendre en interaction avec le monde et en interaction entre eux. Et par exemple, à Jussieu, il y a pas mal de recherches que des collègues font depuis très longtemps sur des populations de petits robots, alors assez basiques, mais dans lesquels ils essayent de faire émerger des comportements sociaux.
Alors oui, et en plus, c'est pas basé... Moi, je me souviens, à Jussieu, j'avais vu des mecs qui avaient fait ça pour... Des tentatives de les histoires d'envoyer des robots sur Mars ou je sais plus quoi, et en fait de dire bah tiens, on va pas prendre la solution humaine, on envoie un mec qui sait tout faire avec tout truc, on envoie une fourmilière. Et travailler sur les fourmilières, je trouve ça super intéressant, parce que la fourmilière a une propriété super super cool, c'est que c'est plein de petits éléments qui ont très peu de règles, genre je trouve de la bouffe, je le dis à mon pote, sinon je continue tout droit. Bon, c'est vraiment un truc tout con. Et tous les individus sont identiques, donc tu peux en perdre, c'est pas grave. Et en fait, ça résiste à tout. Tu files un coup de pied, tu brûles, tu fous de la flotte, la fourmilière, elle tient. Et donc, ils voulaient faire ça sur les robots. Ils avaient un problème, c'est qu'il fallait les construire. Et ça, c'est un petit peu un souci.
En tout cas, dans le monde de l'IA, il y a des idées, justement, pour essayer de dépasser les limites des outils qui sont...
Ben déjà le simple fait d'aborder le langage de façon statistique, enfin moi je trouve ça déjà une proposition aberrante. Quand on se parle, là, on ne calcule pas, je ne calcule pas la statistique du mot que je devrais mettre après ce mot. Non. Je sais ce que je veux dire, j'ai une abstraction de ce que je veux dire, et voilà, et ça s'enchaîne. Mais ce n'est pas de la stat, c'est pas comme un T9, quand vous prenez votre téléphone et que vous amusez à écrire un SMS et vous mettez tous les mots qu'il vous propose, ben, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Donc c'est pas un flow de trucs donnés. Et comme actuellement les modèles, c'est ça, c'est de la statistique. C'est statistiquement tu devrais dire ce mot-là après celui-là. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'en fait nous on est ancré dans une réalité. En fait on a une causalité des faits, on a une mémoire. Ce qui est marrant, c'est que par exemple les ChatGPT n'ont pas de mémoire. La mémoire est apparue il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on fait une discussion, et en fait, le passé de ce qui est fait, c'est ils l'ont introduit il y a à peine 6 mois. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, chaque question était une nouvelle question.
Il n'y avait pas d'historique derrière. Alors maintenant, ils l'ont mis parce qu'ils essaient de faire un business, ils essaient de faire les assistants, machin, et même ça, c'est un peu foireux, mais il n'y a pas, d'histoire de mémoire. Alors que nous, on a une mémoire, nous, on est une IA, on est allumé à notre naissance et à notre mort, on se termine. Et on est non-stop depuis. Les algos, c'est pas ça, en fait. Ils sont allumés quand ils allument la machine, puis après, ça s'éteint. Puis il n'y a rien, en fait.
On sait qu'on est mieux qu'un modèle statistique avec un contexte.
Alors nous, on sait qu'on est plus écologique parce que grosso modo, nous un plat de bolognaise, ça nous suffit. Enfin ou alors plein de plats de bolognaise depuis notre naissance, mais c'est quand même pas 300 watts le GPU pour faire tourner. Hein, donc déjà on est plus écologique. On sait qu'on est parcimonieux. Alors ça, on le sait, mais ça, on le sait en neurosciences, c'est que nous, les signaux répétitifs, on n'aime pas ça, on les ignore. Tu as des trucs, tu as un vieux truc qui s'appelle le P300 dans le cerveau. C'est-à-dire, si je te balance un signal qui fait bip, 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 régulier, ton cerveau, il fait rien. Et puis, si ça fait bip, 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 ton cerveau, il se réveille. C'est l'écologie, en fait, c'est la parcimonie, c'est que nous, si on devait cramer, si notre cerveau devait travailler tout le temps pour faire ce qu'on fait, on cramerait, enfin, on ne pourrait pas. Donc on a une façon de faire, enfin toute la nature, pas que nous, hein, toute la nature a une façon de travailler à l'économie qui fait qu'on ne crame pas toute notre énergie parce qu'on a d'autres fonctionnalités. Nous, on doit marcher, on doit manger, on doit faire plein d'autres trucs. Il n'y a pas que le cerveau. Et donc nous, on est très, très économe. Par ailleurs, on a une faculté qui est assez perturbante, c'est qu'on apprend sur très peu d'exemples. On sait faire des choses, mais sur très très peu d'exemples. Tu regardes un gamin, mais un gamin... Alors, la raison peut-être, c'est que nous, on n'arrive pas avec une page blanche. Quand tu nais, tu as 400 000 ans d'évolution derrière. Tu arrives avec un cerveau qui a déjà été fait et qui hérite de tout le truc. Donc, c'est pour ça qu'on a des réflexes qui sont des réflexes purement... qui datent d'il y a longtemps. Bah, tu vois, si tu, par exemple, le vomissement, je trouve ça marrant, le vomissement en bagnole, c'est lié à un décalage qu'il peut y avoir entre les yeux et l'oreille interne, et ça vient du fait que nos ancêtres, en fait, la plupart, nos ancêtres qui bouffaient des champignons sans savoir à quoi ça servait, et tout ce qui était toxique, et la plupart des champignons toxiques et des baies toxiques, ils ont une propriété dans le cerveau qui commence à te faire brouiller la vue. Et donc, nous, on a survécu parce que dès qu'on avait la partie de la population humaine qui a commencé à gerber, dès qu'elle avait les yeux qui frétillaient, elle a survécu. Les autres, ils sont morts parce qu'ils bouffaient des champignons qu'il ne fallait pas. Et donc, le mal de voiture vient de là, vient du fait que l'oreille interne et les yeux, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, qui ne correspond pas, et on gerbe. Mais on gerbe, mais parce qu'en fait, on gerbe les champignons qu'on vient de bouffer. En fait, c'est juste ça, en fait. Et donc, on arrive avec un cerveau qui est déjà tout fait, en fait. Et par exemple, il y avait des expériences qui montraient que tu montrais la tête à Toto à un gamin de 3 mois, il reconnaissait un humain. On sait reconnaître un visage, on n'a pas besoin de... Donc, on arrive avec un truc qui est pré-câblé, quoi, qui est pas... Et qui nous empêche de faire les trucs. Et donc, on arrive, par contre, à par exemple, la physique est comprise des enfants, des bébés. Ils comprennent, et alors ça, c'est très très fort, ils comprennent qu'il y a de la gravité. On leur a pas besoin de l'expliquer. Ils comprennent que les choses ça va du haut en bas, que les choses tombent. Ils comprennent que, par exemple, la téléportation n'existe pas. C'est-à-dire que si une personne est là, pour aller là, elle doit faire un mouvement continu de là à là. Elle ne peut pas faire pouf-pouf. Moi, j'ai vu mon gamin, quand il était bébé, il avait 6 mois. Il a commencé à flipper parce qu'il m'a vu dans un reflet de miroir. Et j'ai compris après qu'en fait, d'un moment à un autre, je suis passé de là à là. Et il a commencé à paniquer. Je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Et en fait, l'effet d'illusion, il m'a vu passer de là à là, et il n'a pas compris. Et donc, on arrive avec pré-câblé avec la physique dans laquelle on vit, en fait, dans le monde qu'on vit. On n'a pas le choix. Et donc, ça nous apporte une force incroyable pour être ultra économe dans nos décisions. C'est que tu saches ou que tu ne sais pas, quand tu conduis une bagnole, par exemple, les mecs qui galèrent pour faire des ADAS qui résistent à tout, nous, on peut réagir super vite. Alors, on fait un bon choix, un mauvais choix, mais on réagit super vite. On n'a pas besoin de gros traitements pour dire, voilà, l'exemple...
Là, tu es en train de dire qu'on arrive avec un meilleur corpus initial.
Tout à fait.
Est-ce qu'on fait mieux?
Est-ce qu'on fait mieux? Alors, ça dépend comment tu... Non, mais ça dépend sous quel... Est-ce qu'on fait mieux Tu le vois sous le point de vue, par exemple, d'un assureur pour les voitures? Est-ce qu'on fait mieux? Ça dépend de quel angle de vue. C'est quoi être mieux?
Tu nous dis que c'est un modèle prédictif, c'est-à-dire que c'est de la statistique.
Enfin, les modèles actuels, oui.
Ouais, qui travaillent à partir d'un corpus. Mmh. Mais est-ce que nous, on fait mieux que ça, en fait, de la statistique à partir de juste un meilleur corpus?
Alors nous, moi je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait. Je t'avoue, on ne fait pas de la stat, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que notre monde, il n'est pas... Tu vois, nous, on ne vit pas plusieurs vies, on n'en vit qu'une seule. Donc on est confronté à une continuité, un continuum du temps et de l'espace dans notre vie. Donc nous, c'est pas de la stat. Alors il y a des événements statistiques, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. C'est un espèce de continuum dans lequel on vit. On arrive à parler sans trop réfléchir avec un flow assez rapide, finalement. Alors c'est lent comparé à la machine, parce qu'on est, à la centaine de millisecondes, mais c'est assez rapide finalement. On arrive à imaginer les choses, à créer des trucs, on arrive à rêver, ça c'est assez marrant. On a un mécanisme qui est vraiment étrange, je suis pas expert là-dessus, mais c'est assez étrange la façon dont on arrive à faire les trucs.
Et précisément à ce sujet-là, là, dans les couloirs du sommet de l'IA sur le plateau de Saclay, il y avait des psychologues, des gens qui parlaient d'inconscient et qui essayaient de comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire.
On n'a pas les mots là-dessus. En fait, le truc, c'est vachement dur à voir et il y a beaucoup de travaux qui ont fait. Un exemple, par exemple, pour le truc de... Une fois, je parlais avec un mec, un assureur, je ne sais plus quoi. Et pour les ADAS, pour les voitures automatiques. Donc, super, tu as des caméras partout, des lidars dans tous les sens qui détectent les feux rouges, les feux machin. Peut-être qu'il y a une vache au milieu de la route. Bon, OK, super. Puis là, moi, je lui file l'exemple, je lui dis, bah, écoute, t'as un ballon qui arrive, qui fait chou, tou, 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 quand tu conduis. T'as que le ballon. Donc, bon, informatiquement, reconnaître le ballon, ça, c'est super simple. Toi, conducteur, tu as un raisonnement de causalité, tu ne vois rien d'autre que le ballon. Tu fais, ah, ballon, ballon égale enfant ou chien. Dans les deux cas, je freine, t'as aucun élément d'autre que le ballon. Et le ballon et la relation de causalité entre le gamin qui aurait pu balancer le ballon et le ballon, elle n'est le fruit que de ton expérience. Parce que tu le vis. La machine va lui faire apprendre Yves Ballon, alors tu freines. Tu ne peux pas. D'un, tu ne l'auras pas dans des données, parce que ça sera statistiquement tellement faible comme signal que tu ne le verras jamais apparaître. Une chose, c'est que notre réseau de neurones, s'il tant est, il apprend les événements rares. On est très fort à trouver les événements rares, nous. Les réseaux de neurones, c'est exactement l'inverse. Ça apprend le pic de la distribution. Ça apprend l'intégralité. Donc, les événements rares, ça ne les voit pas. Donc, effectivement, c'est bluffant. Tu dis, tu donnes une connerie à ChatGPT, il te sort un truc et tu fais, ah, waouh, super. Bah oui, non, il te sort la majorité de ce que tout le monde aurait dit, parce qu'on est quand même des moutons aussi. On pense tous la même chose. Donc, bah, il va te sortir la majorité des trucs. Mais par contre, demande-lui un truc rare, bah, tu ne l'auras pas, parce qu'en fait, ça ne voit pas les queues de distribution. Là, je parle maths, mais... Alors que nous, on est très très fort pour ça, parce que je pense que notre écologie et notre travail de parcimonie de notre cerveau, qui fait qu'on est vivant, parce que sinon, on aurait cramé, eh ben, nous oblige à aller chercher, à traiter une information subtile pour en extirper exactement ce qu'il faut. Comment ça marche? Je ne sais pas.
Ça fait une bonne transition parce que tout à l'heure tu parlais de, il y a des artistes dans la salle et sur cette question des événements rares, bon, moi je fais de la musique avec des ordinateurs depuis toujours si on m'avait mis devant de la bande magnétique j'aurais fait un autre métier, donc je suis quand même toujours dans les logiciels, mais moi j'ai pas encore trop mis les mains dans l'IA, dans le monde de la musique assistée par ordinateur, même si c'est déjà extrêmement présent en termes de marketing, c'est-à-dire que tous les plugins, tous les programmes te vendent une promesse d'IA qui va changer ta manière de travailler et qui va te simplifier des choses. Et je pense que ça fonctionne sur deux choses. C'est que, en fait, bah, d'une part, le travail créatif, il est en fait aussi composé de plein de choses laborieuses et répétitives sur lesquelles on a tous et toutes envie de gagner du temps. Donc, bah, y a un marché à cet endroit-là qui peut séduire des gens qui, au-delà d'être artistes ou créatifs, sont des travailleurs et travailleuses de l'art et ont des trucs à faire, à rendre à l'heure, etc. Donc il y a un peu une promesse de tel outil va marcher mieux, va marcher plus vite, il y aura moins besoin de réfléchir ou de faire des réglages fins pour arriver à ce qu'on veut faire. Et ça fonctionne un petit peu là-dessus. Et puis l'autre truc, qui est un petit peu l'envers, c'est que dès le début de ChatGPT, par exemple, il y a énormément d'artistes qui se sont mis à faire des choses qui le mettaient en défaut, à jouer avec l'erreur, à créer un espèce de méta-discours critique, mais qui est toujours en train de tourner un petit peu sur lui-même, puisque effectivement, ça ne fait que démontrer que cette chose est bien cette chose. Et moi, j'en ai eu marre, d'ailleurs, assez rapidement de la façon dont certains collègues se sont rués sur cette démonstration-là. Et après, la question, c'est... par exemple, il y a effectivement des moteurs génératifs qui sont hyper efficaces pour faire de la musique, mais qui ne font que refaire de la musique, puisque ça part de musique existante et ça te fait quelque chose qui ressemble. Il y a l'effet bluffant de « Ah ouais, il y arrive tellement vite !» Alors qu'on sait, quand on travaille cette matière-là, le temps que ça peut prendre de manière artisanale, justement. Et après, bon, pour ma part, je fais de la musique expérimentale, faute de termes plus appropriés. Donc refaire, ça ne m'intéresse pas tellement. Faire, c'est intéressant, mais du coup, on fait toujours avec de la technologie. Et il y a évidemment, depuis les synthétiseurs et même avant, le fait de... envoyer un signal dans une machine et de constater quelque chose qui ressort et ensuite de décider si cette chose qui est sortie est intéressante ou non. Et du coup, là, y a des outils, mais au même titre que des modules de synthèse, des choses qui gèrent l'électricité ou des plugins qu'on va des fois justement aller pousser dans leur retranchement. Enfin, l'exemple de base dans la musique, c'est la saturation. La bande magnétique a été inventée pour inscrire du signal, et puis il y a des gens qui se sont amusés à envoyer le signal trop fort. Ça a créé un son qui était différent, qui n'était pas prévu, mais qui en fait a déterminé toute l'esthétique de la musique amplifiée depuis 80 ans. Donc il y a peut-être des choses qui vont exister de ce point de vue-là, mais qui sont, en allant chercher un petit peu dans les coins de ce que ça peut faire comme résultat qui est nouveau, qui est intéressant, etc. Et en même temps, d'une certaine manière, il y avait déjà ça avec l'encodage MP3 où le défaut du MP3, quand on le pousse, ça crée effectivement des artefacts qu'on ne connaissait pas avant du point de vue sonore. Mais on s'en est lassé quand même très très vite. Il y a des musiques un peu glitch dans les années 90 qui se sont amusées à ça. Et puis, on en est tous et toutes quand même revenus assez vite. Donc bon, voilà, c'est un peu pour dire, je ne sais pas ce que ça peut donner.
On va peut-être revenir.
Voir, mais comme je sais que IDX s'amuse aussi beaucoup
mais ça, je pense qu'aussi
à générer des erreurs sonores.
On va se lasser un peu des trucs. Je pense qu'il y a...
Moi, je n'ai jamais rien vu de convaincant sur la musique. Mais par contre, sur la vidéo...
C'est faux.
Bon.
Je m'insurge parce qu'il y a Yasuna Otone qui est quand même le roi du glitch en fait sur tous les médias, donc CD, etc. MP3 notamment, qui a fait un truc sur l'IA il y a bien avant d'ailleurs les modèles ChatGPT, etc. Il y a une dizaine d'années. Voilà, comme d'habitude en fait, il est arrivé de manière très précoce en fait sur les médias avec sa méthode habituelle. Et donc il y a des expériences qui sont convaincantes en fait. Sans vouloir dire qu'il a clos le sujet, en fait, il a quand même balisé, comme il avait fait d'ailleurs avec le CD et puis d'autres choses. Après, il y a d'autres expériences qui sont moins convaincantes, mais dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'on vient d'apprendre que Spotify, par exemple, en fait bourre les playlists de trucs qui sont... Et moi, je trouve ça très intéressant, en fait, la façon dont c'est fait, parce que c'est injecté vraiment sur le mode d'une injection, comme une injection SQL... C'est-à-dire que sans que ce soit vraiment annoncé, visible, etc. Et c'est-à-dire qu'en fait, les analyses, c'est de la musique de supermarché, c'est-à-dire, ouais, vous ne le détectez pas. Donc, c'est-à-dire, on vous l'envoie parce que d'une certaine manière, il y a un moment d'inattention sur cette musique, etc. Donc, ce n'est pas uniquement, en fait, dans la partie artistique. C'est-à-dire, pour moi, les expérimentations sur l'IA, elles ont déjà 10, 15 ans. Et aujourd'hui, on est dans la phase d'institutionnalisation du procédé. Donc, en fait, en termes de musical, on n'est plus du tout dans la phase expérimentale. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que l'expérimentation, c'était il y a 10 ans sur l'IA. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui sont là, ouais, j'aurais bien bossé sur l'IA, etc. Mais très honnêtement, en fait, le processus, il est. Et en fait, faut pas bosser sur l'IA comme un outil nouveau qui débarque, faut bosser sur l'IA comme un procédé institutionnel qui est déjà très bien en place. C'est une architecture super en place. Et là je parle uniquement vraiment en termes de psychoacoustique, hein, exactement comme il y avait des études psychoacoustiques de la diffusion de musique dans les supermarchés dans les années 80. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut le considérer. Et je pense qu'on est au-delà de la partie expérimentale. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. C'est pour revenir peut-être sur la partie musicale, parce que je m'insurge d'entendre, ouais, il n'y a pas d'expérimentation. Non, pas du tout, c'est faux. La deuxième, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut peut-être dire, parce que moi, ce que j'entends là dans la discussion, c'est qu'il y a un fantasme, en fait, sur la façon dont ça fonctionne. Samedi, on s'est vu avec Heidi X. Il se trouve qu'il y a un scientifique qui a fait un exercice très intéressant qui permet de bien calculer comment ça fonctionne. Il a fait une calculette qui est basée sur ChatGPT. Une calculette. Hein. La calculette n'est pas capable de faire un calcul. Enfin, je veux dire, et donc, là, il faut redescendre un peu sur Terre, quoi, sur ces outils. ChatGPT, à l'heure actuelle, fait effectivement une analyse statistique sur quel serait le résultat d'une addition. Il n'est pas capable de pondre un résultat convaincant. Hein, et donc, d'une certaine manière, pour moi, c'est super important d'avoir un... Parce qu'on attendait un outil comme ça, c'est-à-dire un outil pédagogique pour montrer, genre, regardez, en fait, ces outils-là, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et ce dont le discours qui l'habille, en fait, pour dire, regardez, ouais, en fait, c'est du flan. Hein, très honnêtement.
Et dans la pratique, au quotidien, quand tu fais ce genre de truc, c'est un peu ce que je fais... t'es obligé de faire des grosses usines à gaz qui hybrident GPT-4 et lui rajouter des successions en amont et en aval de pré-processing et post-processing de la donnée pour pouvoir avoir un résultat pas trop foireux. Et tu peux pas utiliser l'output de ChatGPT dans des milieux professionnels, pas dans des milieux... Quand tu fais Mumuse, tu t'en tapes de savoir si la réponse est vraie ou pas vraie, tu trouves ça drôle. Dans un milieu professionnel qui l'utilise, il ne supporte pas l'hallucination et tu peux pas te permettre d'avoir une donnée qui est fausse. Donc c'est une galère de pré-traiter, post-traiter l'information pour essayer d'avoir un truc qui n'est pas faux. Parce que quand tu travailles dans une boîte qui fait des documents réglementaires, des documents légaux, tu ne peux pas te permettre la négation d'une phrase. Tu n'as pas, juste pas le droit. C'est pas simplement, c'est que derrière, c'est contractuel. Et donc, tu as plein de boîtes. Le légal, ils ont vachement de problèmes avec ça là-dessus. Et toute l'industrie qui ont des documents, qui ont des masses de documents. Parce que la question, elle est là. C'est que dans beaucoup de grosses boîtes, par exemple, ils ont des masses de documents et ils ne savent plus les gérer parce qu'il y en a trop. Donc, c'est un outil pour pouvoir, et je veux bien croire, essayer de faire du carry and search, typiquement, tu cherches de l'information. Mais toi, tu as l'habitude de chercher par Google par des mots-clés. Mais souvent, ce n'est pas des mots-clés. Dans les documents des grosses boîtes, c'est des phrasés. Et c'est une recherche sémantique, c'est pas pareil. Tu veux tout sur une voiture et puis tu utilises le mot bagnole. Ah, tu fais comment ? Bah, c'est pas le même mot. Par mot-clé, ça ne marchera pas. Donc il faut que tu trouves un truc un peu au-dessus, qui est une abstraction. Ah, j'allais dire un gros mot. C'est pas ça. Donc ça ne marche pas trop mal. Pour certains trucs, le problème, c'est que ça te pompe de la merde, souvent. Et la merde, tu ne supportes pas, parce que si jamais ça s'est réintroduit dans un système de certification dans l'industrie ou légale, alors c'est la catastrophe, là, tu vas droit dans le mur. Et en fait, dans la pratique, les modèles qui sont construits autour, c'est une espèce d'usine à gaz, avec au début du pré-processing, à la fin du post-processing, pour essayer d'éviter ce genre de conneries, parce que derrière, les enjeux sont énormes. C'est pour ça que moi, je ne vois pas du côté de ces algos, il y a ce qu'ils appellent dans le monde du B2C, donc le consumer, toi qui t'amuses à ChatGPT, ça ne rapporte rien et ce n'est pas ça qui va faire vivre OpenAI. Clairement, ils perdent des thunes et c'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est avoir les grosses boîtes, mais les grosses boîtes, il faut les convaincre. Et le problème, c'est que quand tu les convaincs, pour les convaincre, il faut que ça soit 100%, et ce n'est pas 100%. Et c'est là le gros problème. Et le problème de l'économie derrière, c'est ça, c'est que les thunes... Ils vont pas les faire sur... ils savent qu'ils... Je pense pas qu'ils le feront sur les consommateurs, mais ils le feront sur les grosses entreprises. Les grosses entreprises, elles sont dedans, elles claquent des thunes, mais pour l'instant, c'est pas entièrement convaincant. Ça l'est sur certains trucs. Sur certains trucs, il y a des trucs qui sont pas mal. Mais c'est un coût énorme parce que les boîtes, elles claquent énormément de pognon pour le faire. J'ai vu une application, truc tout con, mais qui m'a un peu bluffé, enfin, pas bluffé, mais que je trouvais assez intéressante, dans des domaines industriels où les documents de spécification technique, un avion, une voiture, machin, c'est souvent, quand tu fais un appel d'offres, le constructeur doit répondre, et les documents, c'est des documents ultra formels, avec un langage de requirements, et de, tu dois mettre des prérequis et des réponses. Et dans les milieux industriels, souvent, c'est un langage anglais assez empoulé, assez élevé, qui engage contractuellement. Donc, c'est casse-gueule. Tu mets un mot, et tu vois, dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, c'est souvent le cas. Et c'est de l'anglais, et c'est écrit en France par des Français qui ne maîtrisent pas super bien l'anglais. Par exemple, tu ne dis pas le truc « this stuff should do that », tu dis « shall do that ». Qui utilise Charles? Personne. Mais c'est le mot qu'ils utilisent. Et donc, là, j'ai vu une application où ça rephrase ton texte de telle sorte que ça retire toutes les ambiguïtés de la phrase. Et je trouvais ça pas con, parce que... Alors, ça marche pas à 100%, mais ça marche pas mal. C'est que tu peux pas dire une phrase où il y a un semblant d'ambiguïté qui te saute pas aux yeux, mais en fait, qui l'est contractuellement. Et donc, tu tapes la phrase, le truc, il va te ressortir en disant « Non, non, tu devrais écrire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Parce que c'est l'anglais, et puis parce que ton truc, il est ambigu. Et ça, j'étais bluffé, parce que je me dis, putain, ça, en fait, c'est un gros avantage, c'est que bah, ces gens-là, c'est quand même des dossiers de 1000 pages. Hein. Donc, 1000 pages, tu laisses passer une boulette, tu l'as dans pour ta pomme. Et ça marche pas mal, en fait, ce truc-là. Un exemple qui peut marcher bien.
Pour répondre à la fois sur le sujet, donc Kevin nous a signalé la calculette. Effectivement, j'aurais dû la montrer, là, je ne retrouve pas le lien.
C'est calcgpt.io, voilà, je crois.
Calcgpt, très bien. Calcgpt. Elle est basée sur un modèle qui est quand même obsolète.
C'est GPT-3, mais...
Ouais. Et là, honnêtement, enfin, je n'ai pas testé avec ChatGPT, mais par contre avec DeepSeek. Grosso modo, les sujets du CAPES de maths, c'est-à-dire pour devenir prof, sont traités par DeepSeek aussi bien que mes étudiants, en fait. Hein, grosso modo... Un sujet corrigé par DeepSeek obtient le CAPES de maths et peut donc... En fait, peu importe le niveau, tu peux en penser ce que tu veux, mais ça montre un peu la compétence du truc. C'est, grosso modo, il y a 50% d'erreurs.
Oui, mais ça mesure une accumulation de connaissances.
Oui, bien sûr, mais c'est pas étonnant, en fait, parce qu'il y a des nuées d'anciens sujets sur Internet, c'est des questions
voilà, très... Voilà, mais en fait, c'est pas ça qu'on te demande, parce qu'en fait, après, c'est justement généraliser et aller au-delà. C'est ça qu'on demande à un enseignant, c'est de pouvoir aller au-delà de son bagage. Et un élève, finalement, on lui apprend les trucs pour aller au-delà après, quoi. Et pas s'arrêter à son niveau de connaissance.
Ça, c'est ce qu'utilisent mes étudiants. Ils n'utilisent pas CalcGPT, ils utilisent MathGPT.
Oui, alors, moi, je peux quand même dire qu'il y a, je retrouve à la référence, mais il y a un scientifique ingénieur qui tient un benchmark, en fait, de ces systèmes depuis le début. Et en fait, qui fait des séries de questions logiques.
Ah, et tu as aussi Human Last Exams, tu l'as pas vu celui-là?
Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais
celui-là, il est bien, parce que c'est un collectif de scientifiques qui demande à faire une collection de questions, donc c'est Human Last Exams, de questions scientifiques, balèzes, niveau PhD, et de voir la réponse. Et en fait, c'est un benchmark de trucs comme ça. Et les questions sont bien, bien costauds, quoi. Il faut vraiment être à niveau. Et ça vaut le coup d'être regardé, parce que là, ils sont en train de collecter en fait, des questions là-dessus. C'est un peu pour établir une espèce de Turing 2, quoi, tu vois, un Turing de high level pour pouvoir valider ce truc-là. Et ouais. C'est vachement intéressant.
Ce que prétend Google DeepMind, c'est qu'ils sont donc, sur des logiciels qui ne sont pas en accès public. C'est qu'au niveau mathématique, ils sont au niveau de ce qu'on appelle les Olympiades de maths. C'est des trucs vraiment très, très techniques. Mais néanmoins basé sur des exercices classiques. C'est pas de la recherche, c'est des choses qui sont basées sur un corpus important de trucs qui ont déjà été traités par des champions. Mais disons qu'on est en train de faire avec les concours de maths ce qu'on a fait pour les concours d'échecs et les.
Oui, mais c'est Deep Blue en fait. Voilà. Bah, on ne devrait pas être étonné. On ne devrait pas être étonné là-dessus.
Là, c'est ton Humanity Last Exam, j'observe quand même qu'il est, il est associé à Scale.ai.
Oui, bien sûr. Ouais,
Scale, clairement. C'est vraiment une des entreprises les plus inquiétantes qui existent. Hein. C'est financé par Peter Thiel.
C'est ah oui, ça
jeune, le plus jeune milliardaire, le mec, il a 27 ans. Il a quitté le système éducatif après avoir réussi les Olympiades de maths. Il n'a même pas été à l'université. Il a fondé sa start-up tout de suite. Et c'est un drôle de bonhomme.
Mais regarde les questions. Les questions sont assez poilues, quoi.
Mais donc, juste Scale, c'est un type qui envoie des pubs à mes étudiants pour éduquer ses IA pour faire des maths. En fait, c'est payé $30 de l'heure. Et le but, c'est marrant, les gens sont payés pour ensuite être remplacés par ces outils.
Scale, ils ont commencé en fait comme une boîte un peu de crowdsourcing, en fait, ouais. pour d'annotation, de data, etc. Donc, ils ont monté après en niveau. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réponse statistique qui est similaire en fait à... Grosso modo, en fait, quelque chose qui ressemble à du raisonnement, mais en fait, quand tu leur proposes des raisonnements qui sont un peu biaisés, ils n'arrivent pas du tout à passer le cap. Et donc la question, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce benchmark dont je parlais, justement, il n'est pas basé sur des espèces d'olympiades ou d'exercices, là, de choses qui sont un petit peu, d'une certaine manière, balisées, mais c'est un peu des questions pièges. Mmh. Et là-dessus, en fait, ces modèles, ils sont incapables d'arriver finalement à décoder ces choses-là en ce moment.
Pour revenir sur ce que tu disais, pas, quoi. Mais ce que tu disais tout à l'heure, toi, notre faculté, nous, c'est de pouvoir généraliser et d'avoir des approches sur le même sujet qui sont différentes, de pouvoir aborder un sujet de façon différente et pas juste un seul axe. Ce que fait ces modèles-là, en fait, c'est et si un jour une théorie mathématique ou physique sort bien nouvelle, le truc le verra pas. Ça peut pas le voir. En fait, ça crée pas. Ça fait du mash-up. C'est pas pareil. Du mash-up. Nous, on fait pas du mash-up. Alors après, tu vois, moi, je resterai toujours en tant que physicien la position dans laquelle ont été les premiers physiciens au fin du 19e, quand la relativité et la mécanique quantique sont apparues. À cette époque-là, si jamais tu te replaces dans la physique de l'époque, c'était mécanique classique, tout va bien, on gère à peu près tout. Il y a 2-3 trucs qui nous font chier, mais c'est pas grave, on va les trouver. Il y avait l'effet photoélectrique, 2-3 trucs. Le reste, on a juste à faire du business et à faire tourner la machine. Et il y a 10 gars, ouais, je sais pas, une dizaine de gars, un peu futés, qui ont fait non, le petit truc là que vous ne voulez pas voir, là, l'effet photoélectrique, il y avait ça, puis je sais plus quoi d'autre. Il fallait là, ça pose problème. Ils ont creusé le truc, ils étaient 10 gars, ils ont inventé un bordel qui est de la mécanique quantique, qui est... Enfin, moi, j'ai mis 10 ans à comprendre ce que c'était qu'un quanta, quoi. C'est un boulot, parce que tu dois changer de paradigme, tu dois changer de mots, parce que c'est des mots qui ne correspondent pas à une réalité. La physique quantique, c'est relou, parce que... Si je vous explique ce que c'est qu'un quanta, je vais vous dire « Ah, c'est une onde, mais c'est, en fait, c'est une balle de ping-pong en même temps. C'est les deux en même temps. » On n'en fait pas l'expérience. Donc, à la fin, tu en reviens à une notion de mathématiques. Avec les maths, c'est facile. Et puis, tu expliques ce que c'est qu'un quanta, et puis au bout d'un moment, ça s'intègre. Et donc, ces 10 gars, ils ont créé un truc nouveau, vraiment un truc sorti de nulle part. Einstein, avec la relativité, c'est aussi un autre délire. C'est concevoir le temps comme relatif, c'est...
Einstein, c'est les deux. Hein. C'est aussi l'effet photoélectrique.
Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je l'ai mis dans le même paquet, même si après, à la fin, il y a du schisme. Mais tu vois, dire le temps est relatif, c'est pas trivial, parce que c'est pas une expérience qu'on a, nous. On n'en sait rien, quoi. Si on l'a, parce qu'on entend le son du train. Mais c'est tout. Mais on n'en a pas l'expérience. Donc, en fait, c'est des trucs, et ils ont généralisé ce qu'ils savaient, ils sont sortis de leur corps, on va dire ça comme ça, pour pondre une théorie et qui marche depuis 100 ans trop bien. Et en fait, c'est une théorie physique, on n'arrive pas à la mettre en faux, et ça fait chier, en fait.
Ça permet de fabriquer tout ce bordel.
Ça permet de fabriquer tout ce bordel. Et donc là, putain, il y avait un truc de créatif, et pour moi, tous ces trucs-là autour... j'attends qu'ils nous pondent, tu vois, un truc. Là, il y a vraiment un génie de pouvoir, je sais pas, créer. Alors, t'as la même chose dans l'art. Hein. Tu peux créer un truc comme ça qui est en dehors de toi et qui le reformule avec une. C'est assez hallucinant. Mais t'auras jamais ça avec ça. Là, t'auras l'illusion parce que ce sera un mash-up de ce qui existe déjà. C'est la différence qu'il y a entre la recherche. Et l'innovation.
Tu vois, dans la terminologie gouvernementale, tu as la recherche et l'innovation, ben, c'est deux choses différentes. La recherche, c'est ben, je cherche un truc, je ne sais pas ce que je cherche, je ne sais même pas si mon problème admet une solution, j'en sais rien. L'innovation, c'est ouais, je prends ça, ah, c'est rigolo, ça fait une couleur différente, hop, je le vends. C'est ça la différence entre la recherche et l'innovation. C'est pas la même chose. L'innovation, tu sais à peu près que ça va marcher parce que tu pars de bases qui marchent. La recherche, tu sais même pas si ça marche. T'en sais rien. Donc c'est souvent en pure perte, d'ailleurs.
Est-ce qu'on a épuisé les témoignages, les questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer avant qu'on mange les frites de la map d'enfer? C'est des frites ce soir.
Moi, je veux juste donner un dernier exemple. Tout à l'heure, tu parlais des machines qui se parlent entre elles. Ouais. Il y a une expérience dans le bouquin, j'avais vu dans le bouquin musique de N, un truc des années 80, où ils avaient mis alors une dizaine d'ordi. Bon, à l'époque, c'était des Mac, je ne sais pas quoi, et qui sortaient un son. Chaque machine pouvait écouter et répéter. Donc, c'était les petits oiseaux qui apprennent. Et donc... ils en mettent 10, ils font une expérience, pouf, ça sort. Au bout d'un moment, ça converge vers un truc qui est à peu près similaire. Ils refont l'expérience, c'est un autre truc. Ils refont un autre truc comme ça. Et puis, ils rajoutent maintenant dans l'écoute du haut-parleur la non-linéarité de l'oreille humaine. Et là, ça converge toujours vers un langage avec je sais plus, une vingtaine, trentaine de lettres et de syllabes, exactement comme toutes les langues humaines. Parce que les langues humaines ont toujours le même nombre de syllabes et de voyelles à peu près. Toujours la même gamme, et tu mets la non-linéarité de l'oreille humaine, tu obtiens toujours la même chose. Et ça, alors, c'est jamais la même, mais c'est toujours le même ratio. Et là, j'ai trouvé ça super marrant, un truc tout con, qui est la non-linéarité de l'oreille humaine dans les fréquences. Donc voilà.
Là, au moment de conclure, il y a quelqu'un qui a mis un lien à la fin du pad sur un truc qui s'appelle comparia.beta.gouv.fr, c'est extraordinaire. Donc regardez, c'est la République française qui vous dit ne vous fiez pas aux réponses d'une seule IA. Alors je vais pas commencer à discuter, mais par contre, je regarde qui sont les partenaires. Et donc, il y a le fameux Etalab, là, le Fab Lab de l'État. Mais Google, Microsoft...
Attends, Etalab, ça existe vraiment?
Oui.
Sérieux? J'ai même pas entendu. Etalab, ça fait...
Hugging Face, c'est un distributeur.
Hugging Face, c'est les... Tout passe par eux.
Des évangélisateurs de l'IA.
Tout passe par eux. Hugging Face, c'est vraiment le truc. Autant tu entends parler des autres, Hugging Face, c'est le hub de tous les modèles actuels. Si tu n'es pas dans Hugging Face, tu as raté ta life, hein, clairement, dans le monde. Tu es obligé de passer par là, tu es obligé d'avoir un article là-dessus et tes codes là-dessus. Si tu n'as pas ça dans le milieu, c'est que tu es... Hugging Face, c'est un peu le... C'est le péage. Tu es obligé de passer par eux. Alors, je ne sais pas comment ils vivent. Je ne sais pas qui est derrière Hugging Face. Mais clairement, c'est le péage et tout le monde passe par là. Et tu as deux, trois environnements actuellement. C'est Hugging Face et PyTorch qui est associé à Facebook. Et tout passe par là.
C'est fabuleux ce truc. C'est hébergé sur les infrastructures du ministère de la Culture. Notre service repose sur des dons de crédit cloud.
Nous avons quatre Apple II.
Je ne sais pas, mais merci à la personne qui a rajouté ce lien. C'est fabuleux. J'hésite à cliquer sur la petite case j'accepte les modalités d'utilisation.
Je ne suis pas un robot aussi.
Voilà, je le ferai tranquillement sur une autre machine. Mais c'est rigolo et je me pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que la République française nous demande de ne pas nous fier à une seule IA?
C'est quoi les bots?
Écoute, je ne sais pas, j'ai pas envie de le faire en direct comme ça, je voudrais savoir un peu plus et surtout le lancer depuis une autre machine.
Voilà. Ouais, en fait, ça fait pas très gouvernement. Tu vois, ça, je suis désolé, mais c'est pas gouv.fr. C'est chelou, hein, l'adresse.
C'est chelou.
C'est pas gouv.fr à la fin.
Non, mais à la fin, mais pas au début.
Est-ce
que c'est mais compania.beta.gouv.fr, tu crois, toi, ça?
Non, moi je pense que c'est vrai. Voilà, écoute,
Non.
Ça veut dire qu'ils sont officiellement quand même hébergés en sous-partie de.
Ouais, ok, mais. C'est un peu étrange.
Je pense que
Je sais plus comment s'organiser le bordel, mais en général, c'est sûr.
C'est vraiment ce truc. C'est la Startup Nation, enfin, c'est un vieux truc de Macron qui voulait. C'est tous ses potes qui sont convoqués pour faire des startups qui vont aider l'État dans tous les, l'hôpital, l'éducation, la culture, enfin...
Bah, tu sais,
vous n'êtes pas inquiet des collectes de données tous collecter sur tout le monde, en fait.
Ça fallait commencer à y penser il y a 20 ans.
C'est trop tard, hein. C'est pas
maintenant qu'il faut commencer à penser ça, c'était il y a 20 ans. C'est ton anonymat, tu le gardes au maximum, mais ça, fallait commencer il y a 20 ans. C'est trop tard maintenant. Ça n'a rien à voir avec l'IA, ça a à voir avec la collecte de données. Bon, elle n'a pas commencé.
Ah, disons que l'IA permet d'optimiser le flot de publicité qui va vers toi. Par contre, ça permet de mieux cibler, de mieux te rendre addict.
Et si tu as besoin d'une perceuse alors qu'il est 3h du matin et que tu es dans ta bagnole, bah ouais, désolé, l'algo, il ne marche pas. Mais ce n'est pas nouveau, en fait. Donc, en fait, ta donnée, tu fais gaffe, tu vas sur... Enfin bon, après, ça devient un travail de rester anonyme, de rester... De maîtriser cette information-là. Tape ton nom, demande à ChatGPT qui t'es. Moi, je l'ai demandé la semaine dernière. Tu demandes qui t'es et tu vas voir ce qui te sort et tu vas voir d'où il a scrappé les informations. Alors, LinkedIn, beaucoup, les sites. Et fais en sorte que... Alors, si t'as un nom facile, t'auras beaucoup d'homonymie, donc c'est pas mal. Si t'as un nom pas facile, c'est plus dur. Et ça te permet de savoir où est-ce qu'il a scrappé les informations et depuis quand elles datent. Et en fait, tu maîtrises les données. En fait, les données que tu mets sur Internet, faut pas être naïf. Tu les files, bah, tu les files pas sur.
Là, je suis vraiment terrifié, hein, parce que c'est très très fascinant de voir le langage qui est utilisé par les ministères. Donc là, il s'agit de résoudre les principaux irritants des trois grandes politiques publiques: travail et emploi, accès, santé, aux soins, etc. Et qu'est-ce que c'est que ces trucs ? En fait, on te met des codes et il y a cette idée sous-jacente que des problèmes sociaux vont être résolus par des outils informatiques. C'est certainement une justification pour donner moins d'argent aux services publics. Là, il y a un code qui s'appelle Support, c'est le support de l'activité des startups SocialGov. Voilà. Bref. C'est assez dingue tout ça. Est-ce que c'est le moment d'aller manger peut-être ? Il y a de la soupe, il y a des frites, il y a du kimchi. Voilà, tout ça fabriqué avec les légumes de la map d'enfer.